6h57, bon réveil à tous. J'étais ravi de vous accompagner depuis 5h et je laisse le micro et le studio à Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu Charrier, merci de nous avoir réveillé avec toute l'équipe du 5-7. À demain.
À demain.
Et bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. 21 décembre 2020, nous y sommes. La semaine de Noël démarre. Et c'est un acte de solidarité que nous avions envie de mettre en avant ce matin.
Du bleu des rivages.
Une chanson enregistrée par des personnalités du monde du cinéma, de la musique, du sport. Chanson au profit des sinistrés de la vallée de la Roya et de la Vésubie meurtrie il y a quelques mois par la tempête Alex. Une chanson pour reconstruire qui sera lancée tout à l'heure par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité avec l'un des participants à cette chanson. C'est le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Il habite la région. Il est l'invité du tête-à-tête Europe Matin et ce sera bien sûr l'occasion de parler de foot, de parler de l'équipe de France, de 2021, de l'Euro qui arrive, la place des jeunes, le coup de mou de Kylian Mbappé aussi, la crise qui frappe la Ligue 1, les mots de Didier Deschamps tout à l'heure, à 7h40. Et puis nous allons bien sûr longuement nous arrêter ce matin sur ces décisions en cascade, l'Europe qui se barricade.
The new strain was out of control.
La nouvelle souche du Covid hors de contrôle, dit le ministre de la Santé britannique, plus contagieuse. Mais est-elle plus grave? Remet-elle en question l'efficacité de nos tests, de nos futurs vaccins? On se pose tous beaucoup de questions. Eh bien, vous aurez ce matin sur Europe 1 les réponses du ministre de la Santé, Olivier Véran, et l'invité politique d'Europe Matin, tout à l'heure, à 8h15. Voilà, soyez les bienvenus. J'accueille Laurent Cabral, bien sûr. Bonjour Laurent.
Eh bien, bonjour Sébastien, et bonjour à vous tous, chers amis. Ça tombe bien, c'est la journée la plus courte de l'année. Ça tombe bien parce qu'il va pleuvoir toute la journée. Donc franchement, vous ne pouvez pas mieux tomber, c'est-à-dire que nous aurons les pluies les plus courtes de l'année aussi. On essaie de se consoler comme on peut. Hein. Alors pour l'instant, la pluie n'a pas traversé encore toute la France, mais vraiment, c'est une belle constitution, c'est une belle perturbation bien constituée, et elle va traverser vraiment tout le pays. Alors la Bretagne, la Normandie, la Picardie, la région parisienne sont déjà touchées, comme le Poitou-Charentes. Et puis le Nord, la Champagne-Ardenne, le Limousin et l'Aquitaine sont en train de l'être. Et ensuite, dans l'après-midi, la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, le Sud-Ouest seront à leur tour concernés. Encore que le Sud-Ouest s'approche, les pluies approchent, elles sont à Biarritz. Et à l'écart un peu, l'Alsace, les Alpes et le bassin méditerranéen. Mais sachez que de toute manière, ce sera une journée de pluie avec des températures de 12 à 15 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue dans ce 7-9 tout de suite, votre journal. Bonjour Émilie Dez.
Et bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
Et j'ai eu beaucoup de chance car j'ai eu l'un des derniers tickets. Sinon j'aurais été bloqué à Londres jusqu'en janvier.
De la chance, il en fallait pour attraper les derniers trains à destination de la France depuis le Royaume-Uni. Hier soir, depuis minuit, toutes les liaisons ferroviaires, maritimes et aériennes avec le territoire britannique sont suspendues pour une durée de 48 heures. Le Royaume-Uni sous cloche donc à cause d'une mutation du Covid-19, une nouvelle souche qui serait beaucoup plus contagieuse. Mais selon les autorités allemandes, les vaccins actuels restent efficaces. Dans ce journal aussi, notre dossier du jour sur l'incroyable réussite de Tesla. Le constructeur automobile américain 100% électrique va intégrer aujourd'hui l'indice qui réunit les 500 entreprises les plus cotées à Wall Street. Benoît Payan devrait sans doute devenir le nouveau maire de Marseille. Le conseil municipal se réunit aujourd'hui pour élire le successeur de Michel Rubirola, démissionnaire. Benoît Payan était son premier adjoint. Et puis à quelques jours de Noël, les églises catholiques s'organisent pour qu'un maximum de fidèles puissent assister aux traditionnelles messes de minuit, notamment avec des systèmes d'inscription en ligne.
Après le journal, un chiffre surprenant mais encourageant. En pleine crise, les deux tiers des patrons restent optimistes. C'est l'éclairage éco de Daniel Fortin. Vincent Hervouet pour son regard international. Et puis la déception des handballeuses françaises, défaite en finale hier soir. Mais il y a des choses positives à en tirer, nous dira Virginie Fulpin dans son édito sport. Enfin, Stéphane Bern nous rejoindra pour parler d'histoire. Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'est désormais plus possible de rejoindre la France depuis le Royaume-Uni. Depuis minuit, tous les déplacements, qu'ils se fassent par la route, par l'avion, par le train, sont tous suspendus, du moins pour 48 heures.
Diane Berger s'est rendue à la gare du Nord, où les derniers Eurostars sont arrivés hier soir, et ils étaient pleins à craquer.
On savait même pas si on allait pouvoir monter à bord. On est bien chanceux de pouvoir venir ici. Hein.
Tout juste sortis de l'Eurostar, Craig et Nina respirent. Ils ont franchi la Manche juste à temps pour rejoindre de la famille en Bourgogne pour Noël. Dans le flot des voyageurs qui descendent du train, il y a aussi Franck, un Français installé à Londres.
C'est les derniers trains. En gros, là, il y a des gens qui prenaient des billets à la gare de Saint-Pancras, les derniers billets, et puis voilà.
C'est ce qu'a dû faire Julian, un jeune Hollandais en voyage en Angleterre. Son vol retour vers Amsterdam a été annulé. Car les Pays-Bas ont mis en place des restrictions dès hier matin.
Alors la seule solution pour rentrer chez moi, c'était prendre l'Eurostar jusqu'à Paris, passer la nuit ici et repartir demain. Et j'ai eu beaucoup de chance car j'ai eu l'un des derniers tickets. Sinon j'aurais été bloqué à Londres jusqu'en janvier.
Dans le sens des départs vers Londres, Kaba se dépêche de traîner sa valise jusqu'au train. Ses enfants étudient là-bas et ils doivent tous se retrouver sur place pour les fêtes.
C'est Noël, il faut fêter en famille. Ils ne vont pas nous priver cette année.
Et vous avez peur d'avoir du mal à revenir ?
Oui, je ne saurais pas vous dire comment ça va se passer pour le retour.
Sa crainte que les lignes de train et d'avion soient coupées, pas juste 48 heures, mais plusieurs semaines.
Un reportage de Diane Berger à la Gare du Nord à Paris.
Alors la décision de fermer les frontières avec le Royaume-Uni a été prise hier soir en Conseil de défense. D'autres pays comme la Belgique, le Canada ou encore l'Allemagne ont fait le même choix après cette découverte d'une nouvelle souche du Covid-19.
Une variante du virus beaucoup plus contagieuse. En France, la fermeture des liaisons avec le territoire britannique ne doit durer pour le moment que 48 heures. Le temps de trouver une solution, assure Matignon. Adrien Beck.
Oui, et d'ici là, tous les échanges entre France et Grande-Bretagne sont gelés. Les Eurostar, les vols, les ferries bien sûr, mais aussi le transport de marchandises, les camions. Bref, la France se coupe du Royaume-Uni avec la volonté que ça ne dure pas trop. Paris espère pouvoir rouvrir dès demain ses liaisons avec Londres, moyennant un test obligatoire au départ, notamment pour les nombreux Français qui voudraient traverser la Manche pour passer Noël. En fait, le gouvernement ne veut pas dramatiser la situation. Matignon rappelle d'ailleurs qu'on ne sait pas à ce stade si cette mutation entraîne réellement ou pas une plus grande contagiosité du virus. La France qui se montre un peu à rebours de certains de ses voisins, même si une réunion des ambassadeurs a lieu à Bruxelles aujourd'hui pour tenter une coordination. L'Allemagne compte bien maintenir la suspension de ses vols vers le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre et l'Italie, entre autres, jusqu'au 6 janvier.
Adrien Beck pour Europe 1.
Alors cette nouvelle variante du virus qui inquiète toute l'Europe est apparue au Royaume-Uni. Hors de contrôle, elle a poussé les autorités à reconfiner la ville de Londres et le sud-est de l'Angleterre.
Des régions où le nombre de contaminations augmente plus rapidement qu'ailleurs. Et si elle inquiète autant cette nouvelle variante du Covid, c'est qu'elle semble être beaucoup plus contagieuse, comme l'explique le professeur Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille.
Il y a une corrélation entre l'apparition de cette souche, qui est très répandue à Londres, et puis l'accélération du nombre de nouveaux cas. Et donc la conclusion est que probablement elle est plus contagieuse. On ne peut pas dire si cette nouvelle souche est associée à une gravité de la maladie. Pour l'instant, ça ne semble pas le cas, mais il faut attendre un petit peu. Et on ne peut surtout pas dire aujourd'hui si ça va être associé avec une résistance au vaccin. Puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui ont été vaccinées. L'avantage, c'est que comme le vaccin ARN est plus facile à faire, il est plus facile à modifier aussi. Et donc, tout l'intérêt de suivre ça, c'est parce que ça pourrait conduire très rapidement Pfizer ou Moderna à changer leur vaccin.
Le professeur Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille, joint par Yasmina Katou.
Alors, une nouvelle rassurante. Toutefois, le gouvernement allemand assure que, selon les experts de l'Union européenne, les vaccins actuels contre le Covid restent efficaces face à cette nouvelle souche.
Et c'est d'autant plus important de le préciser que l'Agence européenne du médicament doit se réunir aujourd'hui pour donner son feu vert au vaccin Pfizer. L'objectif, débuter les campagnes de vaccination dès la fin du mois dans les 27 pays de l'Union européenne. La France a enregistré 12 790 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ces dernières 24 heures, 131 décès.
Et sur toutes ces questions autour de cette nouvelle souche, autour du vaccin examiné par les autorités européennes, on attend les réponses, les précisions du ministre de la Santé, Olivier Véran, sera dans ce studio tout à l'heure à 8h15. La politique, ce matin, et sauf surprise de dernière minute, c'est Benoît Payan qui va devenir le nouveau maire de Marseille aujourd'hui.
Il était jusqu'ici le premier adjoint de Michel Rubirola qui a démissionné pour raison de santé. Début septembre, l'élu écologiste avait dû subir une intervention chirurgicale. Et c'est déjà Benoît Payan qui avait assuré l'intérim pendant sa convalescence.
Il est 7h07 sur Europe 1. C'est une journée historique pour la marque Tesla. Le constructeur américain 100% électrique va intégrer l'indice boursier S&P 500 qui regroupe les 500 100 plus grandes entreprises de la place new-yorkaise.
Une arrivée fracassante directement dans le top 10. Cette année, le cours de Tesla a flambé. Alors comment expliquer ce phénomène? Combien Tesla vend réellement de voitures? Et quels sont les futurs projets d'Elon Musk? Dossier spécial ce matin sur Europe 1 avec vous d'abord, Aurélien Fleureau. Bonjour.
Bonjour.
2020 est-elle vraiment une année record pour Tesla?
Oui, et ce sera le cas pour assez peu d'entreprises, mais Tesla est devenu un phénomène boursier. Imaginez, l'action s'est envolée de 680% cette année pour peser plus de 600 milliards de dollars. Dans l'automobile, cela représente plus que Volkswagen, Toyota, General Motors, Fiat Chrysler, Honda et Ford réunis. Mais tout le paradoxe, eh bien, c'est que Tesla ne va vendre que 400 000 voitures en 2020. Rien à voir avec les constructeurs historiques. Le groupe Volkswagen, c'était 11 millions de voitures en 2019. Et Renault seul, donc sans l'alliance, c'est près de 4 millions, donc 10 fois plus que Tesla.
Mais alors, ce n'est qu'une bulle, Tesla. Sur quoi repose ce succès en bourse ?
Ce que me disent les spécialistes, c'est que les marchés achètent une vision, cette image futuriste. Vous vous souvenez peut-être de la Tesla envoyée dans l'espace par SpaceX, propriété également d'Elon Musk, c'était en février 2018. Mais ce qui rend Tesla crédible désormais, c'est aussi la technologie, l'avance prise sur l'électrique. Goldman Sachs estime que la part de marché de Tesla dans l'automobile pourrait atteindre 30% en 2035. Pour l'instant, c'est entre 4 et 5% seulement. Et puis les capacités de production sont en train d'augmenter considérablement avec la construction de 2 gigafactories, 2 méga usines en dehors des États-Unis, Shanghai et Berlin, avec à chaque fois l'ambition de produire 500 000 voitures par an.
Direction l'Allemagne, justement, à une trentaine de kilomètres au sud de Berlin, un an à peine après l'annonce du contrat passé avec la région, l'usine est déjà sortie de terre, un chantier express à la Elon Musk qui tord le bras aux bonnes manières allemandes. En Allemagne, il fascine autant qu'il agace Hélène Kohl.
Pour la région autour de Berlin, c'est bien simple. Avant Tesla et ses 4 milliards d'euros, jamais personne n'avait investi autant d'argent. Le Brandebourg est plutôt connu pour ses pannes industrielles et ses finances bancales. Elon Musk brise tous les codes avec un enthousiasme communicatif.
L'Allemagne, c'est cool. Nous voulons faire ici un endroit super sympa pour travailler. Ça va être super.
Quand il est en visite, l'entrepreneur dort dans son usine en construction. Il a déjà dit qu'il ferait lui-même les entretiens d'embauche sans se soumettre à la convention collective du secteur allemand de l'automobile. À terme, l'usine Tesla aura besoin de 4 millions de litres d'eau chaque jour. Et les écologistes de la région ont déposé des recours. Mais sans attendre le feu vert de la justice, Musk a déjà fait raser des dizaines d'hectares de forêt, déclenchant la colère des riverains comme Manuela.
Une usine quasiment finie sans autorisation de chantier. Mais où est-ce qu'on voit ça? Pour moi, c'est criminel.
Elon Musk s'est engagé à remettre le site en état si jamais le projet était refusé. Sauf que les autorités allemandes attendent toujours qu'il verse ses cautions. Alors vendredi, la région a temporairement suspendu le chantier. Officiellement, l'inauguration de l'usine, c'est dans 6 mois. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Aurélien Fleureau, je reviens vers vous. La particularité de cette usine près de Berlin, c'est la fabrication d'une toute nouvelle génération de batteries.
Oui, des cellules de batterie avec 30% d'autonomie en plus, sans cobalt, une avancée technologique majeure selon Armand Taïeb, le fondateur de Tesla Magazine.
Cette innovation sur les batteries, c'est quelque chose qui va vraiment changer l'approche du véhicule électrique, j'en suis convaincu. On peut faire des batteries qui vont jusqu'à 1000 km, mais elles coûtent très très cher. Donc c'est vraiment cette production de batteries en masse qui permettra d'avoir un véhicule à 25 000 $ qui sera avec une autonomie, je pense, comparable à une Model 3 d'aujourd'hui.
Donc une Tesla à prix raisonnable avec plus de 500 km d'autonomie, voilà ce qui peut-être permettra à l'entreprise d'Elon Musk de retrouver sa place de numéro 1 en Europe. C'était une place occupée en 2019, mais cette année, elle ne figure même plus dans le top 10 qui est dominé par la Zoé de Renault.
Un dossier signé Aurélien Fleureau et Hélène Kohl du service économie d'Europe.
7h11, ça y est, Noël approche à grands pas et les églises catholiques s'organisent pour les messes de minuit.
Covid oblige, les 2/3 des places sont neutralisées cette année dans les édifices religieux pour éviter la propagation du virus. Pour tenter d'organiser au mieux les offices le soir de Noël, certaines paroisses ont mis en place dès à présent des systèmes d'inscription en ligne. C'est le cas à Notre-Dame en Saint-Mélaine à Rennes où s'est rendu François Coulon.
Pour avoir une chance de participer à la messe de minuit cette année à Saint-Mélaine, il vaut mieux être un peu geek et utiliser une application baptisée Enoria. Anne vient de découvrir le mode d'emploi.
On s'inscrit sur le site, on nous demande à quelle messe nous voulons aller et combien nous serons. J'ai récupéré en tout 10 places. À l'entrée, on nous demandera la preuve que nous sommes bien inscrits. Fatalement, certains ne pourront pas assister à cette messe, ce qui est fort dommage.
Comme dans l'Évangile, il y aura ce soir-là beaucoup d'appelés mais peu d'élus, seulement 300 places pour 900 chaises, d'où ce système de célébration sur réservation mis en place par le père Nicolas Guillou.
Vous allez sur Google, et là pour Noël, eh ben, les messes de 17h et 19h ont disparu puisque c'est complet, rempli en quelques jours. C'est terrible, c'est quand même la première fois que ça m'arrive de dire on joue à guichet fermé.
Vous avez des fidèles qui essayent de faire le forcing ?
Des gens qui ont un peu joué des coudes pour rentrer, c'est vrai. Comment voulez-vous qu'on comprenne qu'on vous empêche d'aller à la messe ? Ça peut créer une tension, surtout cette messe-là.
Monsieur le curé célébrera exceptionnellement un quatrième office le soir de Noël pour accueillir au maximum 1 000 000 de fidèles, c'est 2 fois moins qu'à l'accoutumée. Rennes, François Coulon, Europe.
Voilà, des messes sur réservation. C'est... Écoutez, le monde changé en 2020. C'était le journal d'Émilie Dez sur Europe 1, il est 7h13.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Le ciel a débordé du lit noir des nuages.
C'est toute une région qui se mobilise à quelques jours de Noël pour les villages martyrs des vallées de la Roya et de la Vésubie ravagée par la tempête Alex il y a presque 3 mois. Europe 1 vous révèle ce matin cette chanson en exclusivité. Elle sera lancée tout à l'heure par le Conseil Général des Alpes-Maritimes au profit de la reconstruction. Et parmi les personnalités qui ont participé à ce clip, il y a Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Il vient de nous en parler à 7h40. Et bien sûr, on évoquera le foot, l'équipe de France, l'Euro qui arrive, la crise Média Pro aussi. Didier Deschamps, invité du tête-à-tête Europe Matin, tout à l'heure à 7h40. Mais d'abord à suivre, l'éclairage écho de Daniel Fortin et le regard international de Vincent Hervouet. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h16 sur Europe 1, l'heure de l'éclairage écho avec vous ce matin. Daniel Fortin, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Rédacteur en chef au journal Les Échos. Alors que nous sommes toujours en pleine crise, la menace d'une troisième vague se précise. C'est un sondage qui peut surprendre hein, malgré toutes les incertitudes de cette fin d'année. Les patrons français gardent leur moral, gardent un bon moral même.
Oui, un sondage qui a été commandé par le MEDEF à l'IFOP et selon lui, 2/3 des patrons français interrogés sont en effet optimistes pour l'avenir de leur entreprise et sont persuadés qu'ils finiront par se sortir de la nasse du Covid. Et pourtant, ce qui peut sembler paradoxal, ils ne sont que 37% à penser que l'économie va s'améliorer rapidement.
Alors comment vous expliquez cette contradiction ?
Alors il y a des éléments objectifs. Le premier, c'est que le confinement de novembre a été très différent de celui de mars dernier. On a beaucoup appris depuis, que ce soit pour le traitement des malades du virus ou encore pour les gestes barrières à respecter. Deuxième explication, les perspectives de croissance se sont nettement améliorées parce que les économies asiatiques ont redémarré plus vite, notamment la Chine, qui semble avoir vaincu le virus. Et enfin, il faut quand même le dire, les multiples mesures d'aide rapidement décidées par le gouvernement ont porté leurs fruits. L'économie a souffert, mais elle a été maintenue à flot. Aujourd'hui, les dirigeants du MEDEF reconnaissent que 90% de cette économie tourne assez bien. 90%, c'est quand même un chiffre surprenant face au ressenti de la situation par la population.
Oui, parce qu'il y a aussi les chefs d'entreprise qu'on entend beaucoup, ceux qui ont été mis de côté, les restaurateurs, les patrons de salles de concert, par exemple.
Voilà, et c'est tout le problème. Eux sont touchés de plein fouet par la crise, car ils sont obligés de rester fermés. Et vous l'avez dit, on les entend beaucoup dans les médias, ce qui crée un effet de loupe. On a le sentiment que toutes les entreprises françaises sont à terre. Mais non, ça n'est pas le cas. Loin de là, l'économie des services à la personne, celle dont on parle, et celle qui est la plus frappée, ne représente que 10% du total. C'est beaucoup, mais ça n'est pas tout. Le MEDEF préconise d'ailleurs de cibler le plus possible les aides vers ceux qui souffrent. On sait qu'il va y avoir de la casse. Le nombre de faillites pourrait doubler dans les 2 ans qui viennent. Mais en attendant, une majeure partie de chefs d'entreprise se déclare aujourd'hui de nouveau prêts à investir. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit pour l'économie et pour l'emploi.
2/3 des patrons optimistes et 90% de l'économie qui tourne. C'est le chiffre que vous nous révélez ce matin. Merci Daniel Fortin. À demain. Et je salue Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour Daniel.
Votre bonjour. Regard international, 1 mois et demi après le cessez-le-feu dans la région du Haut-Karabakh, on mesure enfin l'étendue des crimes de guerre commis là-bas.
Ben, c'est pas un conte de Noël, c'est un film d'horreur. Il y en a même toute une série, des vidéos qu'ont tournées et les soldats azéris en passant à tabac des civils arméniens, en exécutant des prisonniers arméniens, en profanant des cadavres arméniens. Le clou du spectacle, c'est le snuff movie, l'ennemi qu'on égorge vivant. Comme en Syrie, comme en Algérie, comme à Nice ou Conflans-Sainte-Honorine. Comme Youri Asriyan, 82 ans, qui n'a pas fui le nettoyage ethnique et qui a été décapité dans son village d'Azok, où il était resté seul. Les gros plans ont permis aux voisins aujourd'hui réfugiés de l'identifier. Comme Gennady Petrosyan, qui avait 69 ans et qui n'a pas voulu abandonner sa maison de Madatachen. C'est au couteau qu'il a été supplicié et on entend les rires quand le tortionnaire pose la tête du vieil homme sur la carcasse d'un cochon.
Oui, parce que les soldats se filment et se filment avec complaisance.
Soldats, miliciens, mercenaires, ils ont tous un portable, c'est-à-dire une caméra, et les serial killers documentent eux-mêmes les crimes qu'ils commettent et leur vanité les perdra. Car cette production amateur déborde des réseaux sociaux. Le procureur général d'Azerbaïdjan a déjà fait arrêter 4 sous-fifres qui avaient profané des tombes et des cadavres. Amnesty International réclame des enquêtes indépendantes sur les exactions des deux camps. Parfaite hypocrisie du renvoi dos à dos. Le Conseil de l'Europe s'agite, la justice internationale y viendra, car la guerre fait les criminels et la paix les fait pendre.
C'est l'heure des comptes aujourd'hui, Vincent, en Arménie.
Alors, le pays retient son souffle. Depuis samedi et jusqu'à ce soir, c'est le deuil national en hommage aux morts pour la patrie. Mais dès demain matin, grève générale à l'appel de l'opposition. Elle veut la peau de Nikol Pachinian, le Premier ministre, accusé de toutes les trahisons, d'avoir isolé l'Arménie, d'avoir perdu la guerre. On ne voit pas d'ailleurs très bien comment il pourrait tenir. Sa consolation, c'est qu'il ne risque pas de finir devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Alors que Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan seraient à leur place comme producteurs de ces films d'horreur.
Les crimes de guerre dans le Haut-Karabakh. Le regard international ce matin de Vincent Hervouet. Merci Vincent, à demain. Il est 7h21 sur Europe 1. À suivre, 22-20. Cela s'est joué à 2 buts. Mais les handballeuses françaises ont perdu leur titre de championne d'Europe hier soir face à la Norvège. Il y a malgré tout des choses positives à en tirer. C'est ce que va nous dire Virginie Fulpin. L'édito sport à suivre dans une minute. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Sébastien Krebs.
7h24, c'est l'heure de l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Les handballeuses françaises ont raté la dernière marche de l'Euro, battue par la Norvège hier soir en finale. Mais pour vous Virginie, il faut dépasser la déception et retenir le message si positif transmis par les Bleus.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, elles font mal, ces larmes qu'on a vues couler le long des joues des Bleus à la fin de la rencontre. Ce sont des compétitrices. Elles n'allaient pas accepter la défaite sur le champ en se félicitant de leur parcours dans cet Euro. Non, mais ces larmes nous montrent aussi à quel point les émotions sportives nous rendent vivants. En 1h30, il y a eu l'appréhension, la joie, la peur, la frustration, le sens du sacrifice, l'espoir qui renaît. On a crié, on s'est rongé les ongles, on a poussé des A et des O. Bref, un petit condensé de vie survitaminée comme on en a peu connu en cette année noire. Ces filles-là, elles nous donnent envie que les tribunes soient à nouveau remplies pour partager cette panoplie d'émotions. Ces filles-là, elles savent aussi allumer la flamme chez les plus jeunes qui vont fouler leur premier parquet. Alors évidemment, on aurait préféré que ce conte de Noël se termine par une happy end, mais je n'apprends rien à personne. C'est aussi ça, le sport, vivre des déceptions après avoir touché du doigt le bonheur absolu. Qui n'y a pas cru quand les Bleus sont passés devant la Norvège à quelques minutes de la fin? Ah oui, mais il y a eu quelques imprécisions, un peu de précipitation et la victoire leur a échappé. Mais cette équipe connaît maintenant exactement ce qui la sépare de la Norvège, la meilleure équipe du monde. Un tout petit rien, plein de promesses.
Alors pour vous, cette défaite nous offre finalement des promesses pour l'avenir.
Regardez ce qui vient de se passer en 15 jours. Les Bleus ont commencé leur Euro en pleine incertitude sportive et dans l'indifférence du public en France. Elles le terminent avec une médaille d'argent et une finale qui a passionné les Français. Si ça, ça n'est pas prometteur. Ensuite, cette équipe a de l'avenir parce qu'elle a un réservoir de joueuses impressionnant. Les plus jeunes ont commencé à faire leur trou pendant cet Euro. Et on a bien compris aussi que pour gagner, on a besoin de tout le monde. Cléopâtre Darleux est peut-être la gardienne numéro 2, si on veut, mais c'est elle qui a porté l'équipe à bout de bras en deuxième mi-temps et qui a été élue meilleure joueuse de la finale. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message plus positif de l'esprit d'équipe? Et je pense encore une fois aux petites sportives en herbe qui ont pu assimiler tout ça en regardant les Bleus. Alors maintenant, rendez-vous aux Jeux Olympiques. Les Françaises auront une revanche à prendre contre les Norvégiennes. C'est pas si mal de garder un petit goût amer en travers de la gorge pour aborder les JO. Non, les larmes ne peuvent pas effacer les espoirs et les promesses.
Ces filles-là nous donnent envie que les tribunes soient à nouveau remplies, dites-vous, Virginie Fulpin. À propos des handballeuses françaises, on va leur dire bravo malgré tout. Et restez pas loin, Virginie, ne manquez pas Didier Deschamps tout à l'heure. On va parler de foot à 7h40. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, invité du tête-à-tête Europe Matin. 7h27. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est la dernière ligne droite. Dans quelques jours, nous vivrons cette période enchanteresse pour les uns, compliquée pour d'autres, la période de Noël. Mais d'ailleurs, Pourquoi dit-on Noël ?
Oui, c'est vrai. En anglais, on dit Christmas. En espagnol, Navidad. Bon, en même temps, ce sont d'autres langues.
Difficile de vous donner tort. En tout cas, les avis divergent. Pour certains spécialistes, les Gaulois célébraient à cette période le solstice d'hiver et en se penchant sur leur langue, noyo voulait dire nouveau et el signifiait soleil. De noyoel à Noël avoué, qui a là qu'un pas. Mais pour d'autres spécialistes, c'est au XIIe siècle que le mot Noël apparaît. Il doit son existence à l'expression latine « natalis dies », le jour de la naissance, utilisé chez les ecclésiastes. À travers l'histoire de France, la bataille entre les influences chrétiennes et païennes rend délicates les recherches sur l'origine de ce mot. D'autant plus qu'on disait « Nedleg » en Bretagne, « Noël » en Normandie, « Noué » dans le Nord et « Nadal » en Provence. Je rappelle que dans la Bible, il n'y a aucune référence à la date de naissance de Jésus, que les premiers chrétiens ne la célébraient pas, et pire encore, qu'il est écrit qu'on enfance Dieu lorsqu'on l'adore d'une façon qui lui déplaît. Reste la beauté du récit de cette nativité, où la faiblesse devient force, la pauvreté richesse et l'humilité grandeur. Allez, terminons sur un sourire, une citation de Pierre Desproges. L'adulte ne croit plus au Père Noël, il vote.
Stéphane Bern, on vous retrouve, rien ne change pendant les fêtes, on vous retrouve à 16h avec Mathieu Noël.
De l'or, de l'or, de l'or. Ça brille dans Historiquement Vôtre cet après-midi, c'est fou. On réunit des personnages qui ont l'or en commun. Le pharaon Toutankhamon, les 49ers, tous ces hommes qui sont rués vers l'or dans l'Ouest américain, et Julien Doré aussi, un artiste en or qu'on adore. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël, de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, c'est à 16h. Stéphane Bern, à tout à l'heure. Laurent Cabrol, la météo à 7h29, il paraît que c'est l'hiver aujourd'hui.
Oui, c'est l'hiver, c'est vrai, c'est l'autre événement du mois de décembre, après Noël, il y a le 21 décembre, alors le 21, le 22 selon les années, aujourd'hui c'était, cette année c'est aujourd'hui Noël, c'est aujourd'hui l'hiver, avec le 21 décembre, avec de la pluie, mais alors vraiment, il y a une énorme perturbation qui est arrivée dans la nuit, et elle mesure pratiquement 400 km de long, vous voyez un peu, hein, elle approche maintenant de la Champagne-Ardenne, du Nord, de l'Aube, de la Nièvre, de la Corrèze, nous la voyons progresser à une vitesse très rapide, et nous la suivons depuis ce matin, elle l'a fait depuis que nous avons pris l'antenne à 5h, elle a dû faire à peu près 150 km très facile. Et cette pluie ne va pas en rester là, elle va gagner toute la France. Alors s'il ne pleut pas chez vous, chers amis, c'est que ça n'est pas très très loin. Hein. Si vous habitez par exemple la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, le Sud-Ouest, dans toutes ces contrées, vous allez avoir de la pluie surtout cet après-midi et en fin de journée sur l'Alsace, la Franche-Comté, sur le bassin méditerranéen. C'est une journée de pluie, mais de pluie vraiment, hein. Ce ne sont pas des pluies qui font semblant, ce sont des pluies comme on ne les aime pas, et vous allez avoir en même temps, fort heureusement, des températures relativement clémentes, entre 12 et 16 degrés cet après-midi, et ce matin il n'y a pas de gelée, il fait entre 6 et 10 degrés sur deux tiers des villes de France.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite un nouveau journal, il est 7h30.
Je ne peux pas les empêcher de venir, mais je ne suis pas d'accord parce que en Martinique, il n'y a pas eu beaucoup de malades et là, je pense que ça sera la grosse vague. On va être vraiment malade ici.
Oui, vous êtes nombreux à avoir opté pour un Noël sous les tropiques. Cette année, nous serons en Martinique dès le début de ce journal où les habitants espèrent que cette vague de touristes n'apporte pas avec elle une troisième vague épidémique. C'est une première dans l'histoire de la 5e République. Dernier conseil des ministres de l'année dans un format inédit aujourd'hui. À distance, Emmanuel Macron contaminé et plusieurs de ses ministres cas contact sont toujours isolés. Dans ce journal, l'explosion de nos factures de gaz et d'électricité, conséquence des deux confinements. Et puis dernière ligne droite pour les courses de Noël, en panne d'inspiration, pas de panique. Notre spécialiste série a sélectionné pour vous quelques coffrets inédits. Rendez-vous à la fin de ce journal.
Après le journal, une chanson pour reconstruire. Europe 1 vous révèle ce matin cette initiative au profit des vallées de la Roya et de la Vésubie pour les villages meurtris par la tempête Alex. Et parmi les personnalités qui chantent, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Et puis la proportionnelle est de retour, c'est la dernière tentative de Macron et ce sera l'édito politique de Nicolas Bétou. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus que jamais en ces vacances de Noël, les touristes ont les yeux rivés sur les Antilles, du soleil évidemment, mais aussi des mesures sanitaires bien plus souples qu'en métropole. Exemple en Martinique, où plus de 100 000 personnes ont réservé leur voyage ce mois-ci. Le retour des touristes, c'est évidemment une aubaine pour l'économie de l'île, mais sur place, la population est préoccupée par un rebond de l'épidémie. À Fort-de-France, le reportage de Fanny Marceau.
Tout au bout de la plage, Béatrice et sa famille profitent d'un coin isolé, loin des vacanciers.
Je ne peux pas les empêcher de venir, mais je ne suis pas d'accord parce que en Martinique, il n'y a pas eu beaucoup de malades et là, Je pense que ça sera la grosse grosse vague. On va être vraiment malade ici.
Quelques serviettes plus loin, Guillaume se passe de la crème solaire. Il est en Martinique pour 2 semaines et il estime avoir pris toutes ses précautions.
Toutes les personnes qui ont pris l'avion font un test 72 heures avant. C'est plus sûr que n'importe quel endroit. Et puis s'il y a moins de monde, il y a de l'air, il y a de l'espace, du vent. Donc,
pas question pour autant d'oublier les gestes barrières. Les autorités veulent à tout prix éviter une reprise de l'épidémie comme après les grandes vacances. André Cabier, le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Martinique.
Bien sûr, cet afflux de personnes qui arrivent en Martinique, ça constitue un risque supplémentaire. Mais il ne faut pas dire simplement qu'il y a un risque, c'est terrible, il ne faut pas qu'ils viennent. Ils vont venir de toute façon, mais il faut qu'on arrive à organiser les choses et que tout le monde se responsabilise.
32 000 voyageurs sont attendus pour la dernière semaine de décembre, selon les prévisions de l'aéroport de Martinique. Une vraie inquiétude pour une partie de la population, mais un soulagement, c'est sûr, pour les professionnels du tourisme. À Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.
On en vient à l'autre grand titre ce matin. Une réunion de crise est prévue à Londres. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est petit à petit coupé du monde après l'apparition d'une nouvelle souche du virus particulièrement contagieuse.
Le sud-est de l'Angleterre se reconfine pour au moins 3 semaines. De nombreux pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, suspendent leur liaison avec l'île. Selon les autorités de santé, ce nouveau virus n'a pas d'impact sur les vaccins. C'est aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments doit donner son feu vert à celui développé par Pfizer et BioNTech.
Et sur toutes ces questions qui se posent ce matin autour de cette nouvelle souche du virus, on attend les réponses du ministre de la Santé, Olivier Véran, et l'invité d'Europe 1 tout à l'heure à 8h15. Olivier Véran qui participera tout à l'heure aussi au dernier Conseil des ministres de l'année, qui va se jouer dans un contexte totalement inédit.
Emmanuel Macron souffre toujours du Covid. Le Premier ministre et le ministre des Relations avec le Parlement sont toujours qu'à contact. Résultat, la réunion n'aura pas lieu à l'Élysée. Et Adrien Beck, le gouvernement doit à son tour se mettre au télétravail.
Ah oui, ce sera chacun chez soi. Emmanuel Macron, toujours isolé au pavillon de la Lanterne à Versailles. Jean Castex, confiné à Matignon. Conseil des ministres, sans doute inédit sous la 5e République. Même au plus fort de la crise sanitaire, quelques ministres étaient quand même présents autour du chef de l'État à l'Élysée. Là, le grand rite républicain se déroulera par écrans interposés et même le compte-rendu du Conseil, qui se déroule habituellement à l'Élysée, aura lieu au siège du porte-parole du gouvernement. En tout cas, il n'a pas été question de reporter ce Conseil des ministres, même si Emmanuel Macron est toujours fatigué, courbaturé. Tout comme le chef de l'État a d'ailleurs maintenu ses obligations ce week-end, l'Élysée a fait savoir qu'il s'était entretenu avec plusieurs de ses homologues européens. On sait qu'il l'a fait aussi avec certains de ses ministres sur les dossiers chauds du moment. Bref, un président fatigué, mais qui reste à la barre et qui entend bien le montrer.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Près de 13 000 nouveaux cas enregistrés hier en France. On est toujours loin de l'objectif des 5 000 cas quotidiens fixés par le gouvernement pour la mi-décembre.
Il est 7h35 sur Europe 1. C'est l'une des conséquences des 2 confinements. Nos factures de gaz et d'électricité ont explosé.
Plus 4% lors du premier confinement. Et avec l'arrivée de l'hiver, certains gestionnaires prévoient une augmentation de 20% pour le deuxième. Élise Dangean.
En septembre, on était à 222 kWh. Et en novembre, on a 358 kWh.
Grâce à son compteur Linky, Mathias peut suivre mois par mois sa consommation d'électricité. Lui aura passé quasi toute son année en télétravail. Sa compagne l'a rejoint le temps des 2 confinements. Résultat, de nouvelles habitudes qui se répercutent sur leur consommation.
Il fait assez sombre dans mon salon. Du coup, je suis obligé d'allumer la lumière en permanence, du matin au soir. Le midi, on fait tourner le four ou les plaques chauffantes pour se faire à manger. Et on a l'écran d'ordinateur qui est allumé en permanence pendant la journée.
Selon le gestionnaire RTE, la consommation d'électricité chez les particuliers a augmenté de 4% pendant le premier confinement. Engie lui parle d'une hausse de 20% pour le second. Et tout ça va inévitablement peser sur la facture, rappelle Xavier Pinon, gérant du comparateur Selectra.
Beaucoup de gens sont mensualisés et donc on attend la facture de régularisation pour pouvoir faire le bilan de la consommation réelle. Je pense qu'il va continuer à y avoir des mauvaises surprises sur ces factures de régularisation.
Pour ceux qui ont un chauffage individuel, la note risque d'être encore plus salée. Ça peut monter jusqu'à 130 € de surcoût, dit Selectra, selon la taille de votre logement.
Élise Dangean. Et par ailleurs, on apprend ce matin chez nos confrères du Parisien que le prix de l'électricité devrait augmenter de 2% en janvier, ce qui représente une hausse de 30 € sur chaque facture. Un nouveau maire à la tête de Marseille tout à l'heure, une semaine après l'annonce de la démission de
Michel Rubirola. Sauf coup de théâtre, c'est son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, qui devrait la remplacer. Un accident dramatique hier soir à l'issue du match entre Lorient et Rennes. Un jardinier a été tué par la chute d'une rampe de lumière peu après le coup de sifflet final. Rennes qui l'a emporté contre Lorient 3-0. Et puis match nul entre Lille et le Paris Saint-Germain, 0 partout. Le LOSC reste leader du classement de Ligue 1.
Ça y est, on est à 3 jours du réveillon de Noël et vous faites peut-être partie, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, des retardataires en panne d'idées. Bien, Europe 1 vous accompagne dans cette quête du meilleur cadeau.
Et c'est avec vous Margot Barallon, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste série d'Europe 1, vous avez sélectionné quelques coffrets inédits à déposer sous le sapin.
Oui, et alors d'abord deux très bonnes séries françaises qui ont cartonné cette année pour leur dernière saison. La première, c'est Engrenage, dans laquelle on suit les enquêtes de la capitaine Lorberto. Le coffret avec les 8 saisons vient tout juste de sortir, c'est vraiment idéal pour les fans de séries policières. La deuxième, c'est 10%, série à la fois drôle et émouvante, qui raconte les aventures d'agents de stars de cinéma, un métier vraiment pas facile tous les jours.
Oh, Gilles Lelouch qui veut faire une partie de Uno en ligne.
De Uno?
Ouais, il tourne à New York, il s'emmerde dans son sac étoile et c'est à moi de le divertir.
Ouais, mais ça fait partie de son travail.
Alors la quatrième et dernière saison est sortie cet automne, donc l'intégrale disponible en DVD ou Blu-ray.
Voilà pour deux excellentes séries françaises. Un bon plan du côté des séries étrangères.
Alors la petite nouveauté américaine que j'ai adorée cette année, c'est Perry Mason. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'était une vieille série judiciaire. Oubliez ça, Perry Mason a été remise au goût du jour en 2020 et ça donne une plongée un peu sombre mais très réussie dans le Los Angeles des années 30. Et si vous aimez les séries vintage, je vous signale quand même la réédition d'un grand classique. Les 7 saisons de la série originale Mission Impossible réunies dans un nouveau coffret, ça fait quand même 171 épisodes. Avec ça, vous êtes même paré pour un troisième confinement.
Ne parlez pas de malheur, Margot Barallon. Merci beaucoup pour ces recommandations.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 7h39.
Europe Matin, le 7-9.
7h42 sur Europe 1. Pour lui, 2021 sera une année intense, importante, avec une liste de 23 joueurs à constituer l'Euro au mois de juin et dès le mois de mars, les éliminatoires du prochain mondial. Déjà, les Bleus doivent tenir leur rang de champion du monde. Leur sélectionneur Didier Deschamps est sur Europe 1 ce matin et d'abord pour parler d'un geste de solidarité.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour Didier Deschamps.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis les Alpes-Maritimes, chez vous, ce département martyr de la tempête Alex il y a maintenant presque 3 mois. C'était le 2 octobre, on a tous encore ces images en tête des vallées de la Roya et de la Vésubie totalement dévastées. Et vous nous révélez ce matin, Didier Deschamps, votre participation à une initiative en solidarité avec ces vallées.
Oui, tout à fait. Oui, il y a un clip qui a été fait auquel j'ai participé, donc qui sera disponible tout à l'heure à partir de 11h. Et tous les revenus et les droits d'auteur, ben, les bénéfices iront aux sinistrés des deux vallées qui en ont bien besoin, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert physiquement et aussi sur le plan matériel.
Donc une chanson, un clip avec un titre qui s'appelle donc « Nos vallées » et que le conseil départemental des Alpes-Maritimes et son président Charles Anginési dévoileront tout à l'heure. On en révèle quand même ce matin un extrait, Didier Deschamps. Écoutez.
Le ciel a débordé du lit noir des nuages. Nos vallées ont pleuré jusque sur nos rivages.
Un torrent s'est noyé au cœur de nos villages. Et les larmes ont coulé sur nos visages.
Du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées.
Didier Deschamps, vous poussez un peu la chansonnette sur cette chanson?
Je suis pas seul, heureusement. Mais oui, pour la bonne cause, je trouve cette chanson vraiment très belle et c'est un très bel hommage pour les sinistrés. Donc,
c'est toute la région qui a été meurtrie et marquée par cet événement.
Bien évidemment, la tempête a fait des ravages. Il y a beaucoup de foyers qui ont été complètement isolés pendant énormément de temps. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à reconstruire et plus il y aura de moyens, plus vite ils pourront retrouver une vie normale.
Didier Deschamps, ce n'est pas la seule initiative solidaire à laquelle vous participez, en dehors de votre occupation principale dont on va parler ensuite, qui est sélectionneur de l'équipe de France. Mais vous êtes aussi le parrain de l'opération Pièce Jaune pour les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Vous rempilez cet hiver pour la troisième fois, là ?
Oui, avec grand plaisir, aux côtés de Madame Brigitte Macron. Et ça commencera mi-janvier. C'est une cause qui me touche énormément et pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des aides-soignants et puis des familles aussi qui puissent avoir la possibilité de rester proches des enfants malades. Et c'est une très belle cause et je suis très fier de pouvoir être, de continuer à être le parrain cette année aussi.
Bah voilà, c'est une deuxième information qu'on vous donne ce matin sur Europe 1. Didier Deschamps qui sera donc toujours le parrain des pièces jaunes au mois de janvier. Parlons de football, Didier Deschamps, c'est une année 2021 qui va s'ouvrir et qui sera une année importante pour l'équipe de France avec l'Euro au mois de juin. Il va falloir aussi jouer en parallèle les éliminatoires du Mondial 2022 dès le mois de mars. Calendrier chargé, est-ce qu'il n'est pas trop chargé ?
Oui, année très chargée, mais les joueurs commencent à être habitués, évidemment.
Les Bleus sont prêts aujourd'hui ?
C'est pas trop important qu'ils soient prêts aujourd'hui. Il faudra être prêt au mois de mars déjà pour les trois matchs de qualification, et puis après, avant l'Euro, évidemment, mais c'est pas spécifique aux Français. Tous les joueurs, après une telle saison, forcément arriveront avec de la fatigue.
L'objectif, l'Euro, c'est le titre ?
Oui. On est champion du monde en titre, c'est un statut, mais il faut avoir cette ambition-là. Et quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout. Mais vu ce qui nous attend déjà dans les matchs de poule, avec une poule très difficile, puisqu'on se retrouve avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, donc ça sera une étape, bien évidemment, mais il faudra bien la franchir, celle-là, pour espérer après continuer notre route.
Quel bilan vous tirez, Didier Deschamps, des performances de l'équipe de France là, sur l'année écoulée, sur cette année qui a été très compliquée, très hachée?
On a eu 8 matchs avec l'objectif qui a été atteint à travers la Nation League de se qualifier pour le Final Four et terminer premier de notre groupe et en battant le Portugal chez lui. C'est l'occasion pour moi aussi, et cette période avec le report de l'Euro, de pouvoir faire des choses un peu différentes, de pouvoir régénérer aussi le groupe. Donc j'ai donné du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Ça va certainement compliquer mes choix avant de faire la liste pour le mois de mai, mais c'était la bonne période pour le faire. Et l'équipe de France est restée compétitive en atteignant cet objectif. Et aujourd'hui, même s'il faut toujours de la prudence et ne pas se croire plus fort qu'on est, mais l'équipe de France est très compétitive.
Vous avez diversifié cette équipe de France avec de jeunes talents qui sont arrivés, de nouveaux appelés, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga par exemple, très jeune, 18 ans. Ce sont des jeunes joueurs qui pour vous ont validé en quelque sorte leur place en équipe de France. Là, vous aurez besoin d'eux ?
C'est difficile d'y répondre aujourd'hui. Sur le moment, c'était important parce que je considère qu'ils ont le potentiel pour rester au niveau international. Sur le terrain, ils ont très bien répondu, donc ça c'est leur mérite. J'ai qu'une liste de 23, mais j'ai la chance et le privilège d'avoir des joueurs en qualité et en quantité, vraiment un vivier très important. Donc forcément des choix durs, difficiles, mais j'y suis habitué, je préfère être habitué à ça.
Des choix difficiles, ça veut dire, Didier Deschamps, que personne n'a sa place réservée, pas même les piliers historiques de l'équipe de France ?
Je n'irai pas jusqu'à là. Disons que ceux qui ont un vécu, qui font partie régulièrement de l'équipe de France, s'ils n'ont pas de soucis sur le plan physique, ils devront être là. Et j'espère le plus grand nombre, parce que voilà, rien ne remplace le vécu et l'expérience.
Est-ce que, comme d'autres qui le disent, vous êtes inquiet de voir une certaine baisse de forme de Kylian Mbappé ces derniers temps ?
Vraiment pas. Après, les joueurs, quels qu'ils soient, même Kylian peut avoir une période où il est un peu moins bien. Kylian a fait tellement de choses extraordinaires et continue d'en faire, même si ces derniers temps, il a peut-être une efficacité qui est un peu en dessous de celle qu'il avait, mais j'ai aucun souci par rapport à ce qu'il est capable de faire et ce qu'il sera capable de faire encore.
Voilà, on verra donc cette liste au mois de mai avec les 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro. En attendant, le football se joue dans des stades vides. Didier Deschamps et ce football professionnel est très affecté par la crise sanitaire, crise à laquelle il faut ajouter la crise des droits avec Mediapro. Deux clubs de Ligue 1 notamment disent être inquiets de ne plus pouvoir verser les salaires. On a entendu Nîmes, on a entendu Montpellier qui s'inquiète de ses finances. Vous êtes inquiet, vous, pour l'avenir des clubs français ?
Évidemment, le football professionnel est touché, mais il ne faut pas oublier que le football amateur est encore plus touché que le football professionnel. Les complications sont encore beaucoup plus importantes. Tous les domaines professionnels sont touchés par cette pandémie. Donc forcément, avec des impondérables, et notamment les droits télé qui aujourd'hui sont en suspens, ça rend les clubs français fragiles. J'espère qu'une solution pourra être trouvée et surtout qu'on puisse retrouver le plus tôt possible des conditions normales.
Didier Deschamps, juste une dernière question. À côté du sport, il y a eu cet incident lors du match PSG Istanbul, des joueurs qui rentrent au vestiaire, qui refusent de jouer après un commentaire de l'un des arbitres désignant un membre du staff par sa couleur de peau. C'est important ce qui s'est passé ce jour-là ?
Oui, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter, mais pas seulement dans un stade de foot, dans la vie quotidienne aussi, toutes les discriminations n'ont pas de place. Et que les acteurs, en l'occurrence les joueurs ou entraîneurs ou responsables qui étaient là, ont eu la bonne attitude, c'est des choses que l'on ne doit pas voir dans un stade ou ailleurs, pas spécifiquement dans un stade de foot.
Et quand on voit cette image, quelque chose a changé dans le foot aussi.
Ben, le foot, c'est le reflet, le sport, le foot qui est un sport très populaire, est le reflet de la société. Donc c'est très bien et il faut que tout l'ensemble des acteurs, quel qu'il soit, qu'il y ait une union pour justement ne pas être confronté à de telles situations.
Merci beaucoup, merci Didier Deschamps d'avoir été l'invité du tête-à-tête d'Europe Matin ce matin, et on attendra de découvrir en entier donc cette chanson à laquelle vous avez participé et ce clip qui va être diffusé tout à l'heure à 11h par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Anginesi. Cette chanson au profit des vallées de la Roya et de la Vésubie dans votre département, les Alpes-Maritimes. À bientôt Didier Deschamps, bonne fête à vous.
Merci, bonne fête à tous et prenez soin de vous.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h05 sur Europe 1, l'édito politique à présent avec vous, Nicolas Bétou, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Votre journal, Nicolas Bétou, l'Opinion, hein, révèle ce matin que c'est début janvier, dans une quinzaine de jours, que le Modem va lancer une offensive pour tenter d'imposer une réforme politique majeure, la proportionnelle.
Oui, François Bayrou en est depuis toujours un ardent défenseur. Il en avait même fait en 2017 une condition pour se retirer de la course à l'Élysée et pour se rallier à Emmanuel Macron, ce qui avait permis au candidat venu de nulle part de l'emporter. Sauf que depuis, sur la proportionnelle, rien ne s'est produit. La réforme a toujours été repoussée, pas le temps, pas le bon moment, pas le bon projet, et c'est devenu un véritable serpent de mer.
Alors qu'est-ce qui pousse François Bayrou et le Modem à le ressortir aujourd'hui ?
Alors, plusieurs points. D'abord, il ne reste que quelques mois pour agir. Il est en effet interdit de modifier un mode de scrutin dans l'année qui précède des élections. En mai-juin prochain, il sera donc trop tard pour les législatives de 2022. Ensuite, deuxième raison, parce que les partis comme le Modem ou plus encore le Rassemblement National ont toujours trouvé que le scrutin majoritaire était d'une grande injustice. Il minimise les petits partis et suravantage les grands en leur donnant une majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est vrai que lorsque Marine Le Pen fait 35% des voix et que son parti n'a que 1% des députés, bon, bah, ça fait une drôle d'équation.
Mais est-ce que ce n'est pas justement l'une des raisons pour lesquelles ce projet de proportionnel n'a jamais avancé ?
Si, si, bien sûr. Mais à un moment où Emmanuel Macron cherche par tous les moyens à innover dans sa relation avec les Français, un grand débat une année, une assemblée de vrais gens tirés au sort pour mener une convention climat de l'autre, bah, difficile de balayer la proportionnelle d'un revers de la main. Et puis beaucoup dans la majorité La République En Marche se rendent compte que si Emmanuel Macron était réélu en 2022, bah, il lui serait probablement impossible de rééditer l'exploit de son premier mandat, c'est-à-dire avoir à l'Assemblée nationale une majorité absolue de députés à lui tout seul. Beaucoup de parlementaires l'ont quitté depuis 3 ans et un certain nombre ont clairement montré leurs limites. Ils ont donc peu de chances d'être réélus. Bon, l'idée d'instaurer une proportionnelle, c'est-à-dire un mode de scrutin qui est réputé favoriser les alliances avec d'autres partis, les grandes coalitions en quelque sorte, ben évidemment, ça prend tout son sens.
Ça prend tout son sens, comme vous dites, mais est-ce que ça ne fait pas justement un peu manœuvre électoraliste ?
Si, vous avez raison, c'est le risque de tripatouillage et c'est ce qui explique pourquoi le président ne sera pas en première ligne sur ce sujet. Et puis, on ne peut pas dire que cette réforme soit la priorité des Français. Hein. On ne sort pas de l'actualité oppressante du Covid, et puis maintenant de sa mutation anglaise. Les législatives sont très très loin des préoccupations des Français. Le plan est donc clair. Il revient au MoDem de François Bayrou, mais aussi à Richard Ferrand, en tant que président de l'Assemblée nationale, de pousser l'idée. Et ça permettra de tester rapidement sa faisabilité.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito politique tous les matins dans Europe Matin, c'est juste avant 8h. 7h59 très précisément, c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo.
Et l'heure de retrouver le temps d'hiver, puisque nous sommes en hiver aujourd'hui, je le rappelle à nos amis, à ceux qui nous rejoignent, nous sommes le 21 décembre, c'est l'hiver de nos cours de géographie, c'est pas l'hiver météorologique, mais enfin, on va sentir l'hiver dans les jours qui viennent. Auparavant, juste un petit mot là, pour aujourd'hui, c'est vraiment de la pluie, hein. De la pluie, la perturbation mesure 400 km de large, elle traverse toute la France, elle va épargner personne, soit sous forme de nuages en Méditerranée, soit sous forme vraiment de pluie, et tout le monde sera concerné avant ce soir. Donc voilà pour cette journée de lundi. Demain, ce sera beaucoup mieux sur la région du Sud, ce sera même très doux, alors que sur le Nord, il continuera de pleuvoir. Mais je voudrais vous parler surtout de Noël, car j'ai l'impression que l'on arrive vers un Noël au tison. Alors je m'explique, à partir du 24, c'est-à-dire de la nuit du réveillon, les températures vont plonger, et nous risquons d'avoir le 25, dégelé en pleine, nous risquons d'avoir de la neige à basse altitude, et nous risquons d'avoir des températures de 5-6 degrés dans la journée. Et donc dégeler le matin. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un Noël au tison. Mais enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Allez.
Bon.
J'aurai peut-être d'autres précisions.
À tout à l'heure, on vous retrouve juste après 8h30, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bonjour Rémi Bossaron.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le journal avec vous, il est précisément 8h sur Europe 1.
La nouvelle souche était hors de contrôle. Nous devons reprendre le contrôle et l'unique manière d'y arriver est en limitant les contacts entre les gens.
Les mots du ministre de la Santé britannique après la découverte d'une nouvelle variante du Covid-19 outre-Manche, une variante peut-être plus contagieuse qui a poussé de nombreux pays, dont la France, à suspendre leur liaison avec le Royaume-Uni. Faut-il avoir peur de cette nouvelle variante ? Nous répondrons à cette question. Nous vous emmènerons aussi en Belgique, devant l'usine Pfizer, d'où partiront toutes les doses de vaccins destinées à l'Union européenne, si ce vaccin est autorisé aujourd'hui. Et puis, si vous avez l'impression que la magie de Noël est entamée par cette épidémie et par les restrictions, c'est peut-être la bûche qui vous apportera du réconfort. Reportage alléchant à suivre dans le laboratoire d'un pâtissier qui travaille jour et nuit pour que tout le monde soit servi.
Est-ce la panique à travers l'Europe face à cette nouvelle souche mutante du virus ? Que sait-on de sa contagiosité, de sa gravité, de sa présence en France ? Beaucoup de questions à poser au ministre de la Santé, Olivier Véran, invité politique d'Europe 1, juste après le journal. Bon début de journée à vous tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ni par la mer, ni par les airs, ni par les rails, aucun voyageur ne peut aujourd'hui se rendre en France depuis le Royaume-Uni. Suspension de toutes les liaisons pour 48 heures, décision prise face à l'apparition d'une mutation du Covid-19 outre-Manche, une nouvelle souche qui est hors de contrôle selon les autorités britanniques. Nina Guérino de la mairie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Londres pour Europe 1, une ville obligée de se reconfiner. C'est un réveil douloureux ce matin pour les Britanniques.
Oui, et le titre à la une ce matin du Daily Mail résume bien le sentiment des Britanniques. Pour ce tabloïd, c'est le pire Noël et l'agonie va être longue. Cette nouvelle souche du Covid-19, on sait désormais qu'elle a été découverte en septembre. Elle inquiète beaucoup le gouvernement parce qu'elle se propage jusqu'à 70% plus rapidement. Cette souche est responsable d'un cas sur deux des infections enregistrées à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Et après plusieurs mois, elle est désormais partout, selon l'épidémiologiste Susan Hopkins.
On a détecté la souche dans de nombreuses parties du pays. Il y a des cas dans toutes les régions, mais encore à un taux très faible.
Face à l'accélération de l'épidémie, Londres et le Sud-Est sont à nouveau confinés depuis hier. Avec cette mutation du virus, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a expliqué qu'il fallait agir vite et fort.
La nouvelle souche était hors de contrôle. Nous devons reprendre le contrôle et l'unique manière d'y arriver est en limitant les contacts entre les gens.
Un confinement local qui concerne 16 millions de Britanniques et qui pourrait durer plusieurs mois. Samedi, de nombreux Londoniens se sont donc précipités dans les gares pour quitter la capitale et rejoindre le nord de l'Angleterre ou même partir à l'étranger.
Merci à Nina Guérino de la mairie à Londres, donc pour Europe 1.
Et la France n'est pas la seule à avoir décidé de suspendre toutes ses liaisons avec le Royaume-Uni face à l'apparition de cette mutation du coronavirus.
Et en fait, c'est toute l'Europe continentale qui peu à peu se coupe du voisin britannique. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie notamment ont décidé de suspendre au moins les liaisons aériennes. Alors forcément, tout cela est impressionnant à observer. On pourrait y voir comme un vent de panique. Mathieu Charrier, je me tourne vers vous avec cette question simple. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette mutation du virus?
Alors à ce stade, non, hein, les médecins le disent, même si évidemment il faut impliquer le principe de précaution. Ce que l'on sait d'abord, c'est que 20 000 mutations du Covid-19 ont déjà été détectées dans le monde cette année. Maintenant, c'est vrai qu'elles n'entraînent pas toutes un cri d'alerte du pays, comme l'a fait l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que cette dernière mutation fait que le virus serait plus contagieux et aurait donc entraîné une hausse des hospitalisations autre manche. Mais plus contagieux ne veut pas dire plus dangereux. La question en réalité, c'est de savoir si l'efficacité du vaccin pourrait être remise en cause. Et là encore, les médecins se veulent rassurants, car même si c'est la protéine Spike qui aurait muté, c'est-à-dire une protéine située à la surface du virus et qui lui sert en quelque sorte de clé pour pénétrer nos cellules, on sait que cette protéine Spike, elle a déjà muté 4000 fois, donc pas d'inquiétude pour les vaccins, selon le généticien Axel Kahn.
Les autres anticorps qui sont développés par les vaccins continueront d'être efficaces. En revanche, c'est tout de même inquiétant parce que cela veut dire qu'il y aura plus de personnes infectées. Donc, il faudrait que cela aille avec un effort colossal au niveau européen pour diminuer la circulation virale.
Et précisons que les experts de l'Union européenne ont aussi indiqué hier que les vaccins actuels restaient efficaces face à cette nouvelle variante du Covid-19 qui n'entraînerait à ce stade des connaissances, selon le médecin-chef de l'Angleterre, ni symptômes plus graves, ni mortalité plus élevée. Des études plus poussées sont en cours.
Merci Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1.
Et on verra ce qu'en dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous rejoint dans ce studio. Il sera l'invité politique d'Europe Matin dans 10 minutes. Mathieu, vous nous donniez ces quelques éléments rassurants, notamment sur l'efficacité des vaccins. C'est une information importante, puisque c'est justement aujourd'hui que ces premiers vaccins pourraient être autorisés dans l'Union européenne.
Et l'Agence européenne des médicaments devrait a priori autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce serait le coup d'envoi des campagnes de vaccination en Europe, le lancement d'un dispositif gigantesque qui trouvera sa source dans une petite ville de Belgique, pure sous Europe 1, et présent ce matin avec vous, Jean-Sébastien Soldainier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Pure, c'est une petite ville, un peu plus de 20 000 habitants, et c'est surtout là que se trouve l'usine Pfizer, d'où partiront toutes les doses destinées à l'Union européenne. Alors, sur place, est-ce qu'on a déjà le sentiment d'être dans une course contre la montre ?
Non, au contraire, c'est plutôt un sentiment de sérénité qui règne ici. Le site semblait à l'arrêt hier dimanche et les premiers salariés sont arrivés tôt ce matin, donc ça ne tourne pas 24 heures sur 24. Ces 3000 employés ont interdiction de parler, il y a du secret, mais pas de paranoïa, pas de sécurité à outrance, un simple grillage, quelques caméras, rien de plus autour de ce site implanté dans ce que les Belges appellent la Pharma Valley, Purs, 25 000 habitants entourés de champs d'asperges. C'est de là que des camions sont censés partir pour toute l'Europe, des camions qui ne doivent pas être identifiés pour éviter tout vol de vaccin. À l'intérieur des remorques, il y a de quoi surveiller les doses à distance. Tout est suivi en temps réel par GPS. Il y a même des capteurs qui enregistrent et qui transmettent la température des caissons à tout moment pour être sûr qu'elle se maintient à moins 70 degrés. En cas de réchauffement, une alerte est donnée pour ne pas compromettre l'efficacité des doses.
Alors vous l'avez dit Jean-Sébastien, ces camions vont partir dans toute l'Europe et ça se fait dans des règles de répartition très strictes.
Exactement, chaque pays a son quota et uniquement son quota. C'est réparti tout simplement en fonction de la population de chaque État membre. Le taux d'infection comme les niveaux d'alerte ne rentrent absolument pas en ligne de compte. La France recevra donc 15% des doses de vaccins produites ici, soit un peu plus d'un million avant fin décembre. Premières injections le week-end prochain, 26 ou 27 décembre. En attendant, ces vaccins seront stockés dans l'un des 130 sites français répartis sur tout le territoire et capables de les conserver à basse température.
Merci Jean-Sébastien. Sébastien Soldaini, donc vous étiez en direct devant l'usine Pfizer de Purse en Belgique pour toutes ces explications.
Et pendant ce temps, eux ne peuvent plus se faire entendre sur scène. Alors ils vont tenter de le faire devant le Conseil d'État.
Et les acteurs du monde de la culture ont déposé une dizaine de recours devant la plus haute juridiction administrative. Ils contestent les fermetures de salles décidées par le gouvernement face à l'épidémie. On parlait de scènes parce que cela concerne notamment les théâtres, mais en fait ce sont de très nombreux lieux qui sont concernés. Diane Chenouda.
Cinéma, théâtre privé, public, les cirques, des centres d'art ou des musées comme le Palais de Tokyo, tous réclament la réouverture de leurs établissements dès que possible et ils en appellent donc au Conseil d'État. Adrien Devanne est le directeur du théâtre Paris-Villette.
Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne comprend le choix qui a été fait de laisser aujourd'hui les théâtres, les cinémas, les musées, qui sont parmi les lieux où les règles sanitaires sont le mieux respectées. Pourquoi ces lieux-là ont d'une certaine manière été sacrifiés et pourquoi aujourd'hui on peut assister à un office religieux mais pas à une représentation de théâtre ? On peut se promener dans n'importe quelle galerie marchande mais pas au musée du Louvre.
Des recours déposés au nom de l'égalité et ils espèrent bien obtenir gain de cause sur ce point.
Ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, il soit dit que la culture est essentielle, que la culture est une liberté fondamentale de l'homme et qu'elle doit être préservée au même titre que n'importe quelle activité.
Quant aux centres d'art, ils feront valoir que les galeries d'art, elles, sont ouvertes. Alors pourquoi pas eux ?
Les explications de Diane Chenouda, c'est à partir de 9h tout à l'heure que le Conseil d'État examinera ses recours du monde de la culture.
Et Europe 1 s'associe au mouvement pour la culture. La culture est essentielle et on en parle chaque jour jusqu'à Noël à 8h30. Deux artistes chaque jour viennent nous donner leur conseil culture, leur coup de cœur en cette fin d'année. Il est 8h08 sur Europe 1. Les vacances scolaires ont commencé vendredi soir. C'est le moment de se reposer, mais c'est aussi le moment pour les élèves de terminale de penser à leur avenir.
Et oui, déjà, quand on parle d'avenir, on parle avant tout des études qu'ils pourraient embrasser à la sortie du lycée. Quelles études supérieures pour quel métier ? La question est d'actualité, car c'est justement aujourd'hui qu'ouvre sur Internet le fameux site de Parcoursup. Et ce n'est pas un hasard s'il ouvre au début de ses vacances, Virginie Riva.
Effectivement, l'idée, c'est que chaque élève prenne le temps durant ses vacances scolaires d'aller sur le site de Parcoursup, rechercher des formations, regarder les critères de sélection de chacune et ensuite échanger avec sa famille pour mûrir son projet d'orientation. Les nouveautés cette année, pour ceux qui veulent devenir vétérinaires, plus besoin de passer obligatoirement par une classe prépa, vous pouvez tenter votre chance en passant un concours commun cette année. Nouveauté également pour les DUT qui deviennent des BUT et passent désormais en 3 ans. Le DUT ne disparaît pas pour autant. Si vous êtes enfin féru d'informatique et que vous voulez tenter une classe préparatoire, une nouvelle voie est créée cette année. Pour formuler les vœux, ça sera à partir du 20 janvier et jusqu'au 11 mars. Conseil important, même pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire depuis longtemps, ne surtout pas se focaliser sur une seule voie, mais réfléchir à un plan B. Et puis, plus stratégiquement, il faut soigner la révision des épreuves de spécialité du bac mi-mars, puisque cette année, les notes seront intégrées au dossier de sélection.
Et merci pour ces explications, Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Si vous avez suivi les recommandations, vous avez prévu d'être 6 au maximum autour de la table pour fêter Noël.
Un Noël en petit comité, c'est peut-être un peu moins de magie, direz-vous, mais s'il faut voir le bon côté des choses, pensez à ceci, il y aura davantage de bûches par personne, car oui, la bûche, elle, peut s'inviter dans tous les foyers en toute sécurité, et pour que tout le monde soit servi, on s'active chez les pâtissiers, notamment dans le laboratoire de Philippe Conticini, en banlieue parisienne, là où s'est rendu pour Europe 1 Pierre Herbulot.
Des mousses chocolat, des croustillants pralinés, des biscuits aux amandes. Une douzaine de pâtissiers façonnent les quatre bûches de la maison Conticini. Le chiffre est confidentiel, mais il y en a plusieurs milliers à sortir d'ici les fêtes.
C'est pas de la dinette, on fait des grosses productions, il faut pouvoir sortir du débit tout le temps. Quoi.
Julien Bispo, le responsable recherche et développement, vaporise quelques bûches exotiques d'un glaçage brillant.
C'est vraiment un marathon pour nous à Noël. C'est vraiment la période de l'année. Il ne faut pas se louper, il faut faire plaisir aux gens. Les gens veulent un gâteau pour Noël, ils veulent fêter ça en famille, on n'a pas le droit de les décevoir.
Faire de bonnes pâtisseries ne suffit donc pas pour Philippe Conticini, propriétaire de 5 boutiques à Paris, Londres et Tokyo.
C'est pas juste faire une bûche au chocolat, un biscuit machin, un biscuit financier, un truc à la vinacoise. Non, non, ça peut être très bon, mais je ne ferai pas ressentir quelque chose aux gens. Il faut vraiment que moi j'y mette l'émotion que j'ai envie de ressentir. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est ce que j'essaye de faire.
Comme avec sa bûche chocolat.
C'est un gros câlin chocolaté, quoi.
Celle Jasmin Cassis.
Alors là, celle-là, elle est fruitée à mort.
Ou la Yuzu Kumquat.
Très doux et très vif en même temps, c'est très agréable.
Pour fabriquer toutes ces émotions, ces équipes vont travailler presque nuit et jour jusqu'à Noël.
On retient le gros câlin chocolaté pour Noël, le reportage de Pierre Herbulot.
L'expression préférée de Philippe Conticini. Il n'a pas choisi la plus mauvaise bûche, Pierre Herbulot. 8h12 sur Europe 1. C'était le journal de Rémi Bassaron.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Dans une minute, l'interview politique d'Europe Matin et au moment où l'Europe se barricade, où la France ferme toutes ses liaisons avec la Grande-Bretagne face à cette nouvelle souche du virus, on se pose tous beaucoup de questions sur la gravité potentielle de la situation. Les réponses du ministre de la Santé dans un instant. Je reçois Olivier Véran. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h15 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin et ce matin le ministre de la Santé. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Merci beaucoup, merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour votre première intervention depuis cette réaction en chaîne qu'on a vue à travers le week-end en Europe, cette variante du Covid détectée en Grande-Bretagne et qui conduit le continent à à se barricader. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de panique à travers l'Europe?
Non, il y a un principe de précaution qui s'applique et c'est tout à fait normal. De quoi parle-t-on? On parle de l'identification d'un variant du virus, c'est-à-dire le même virus, mais dont le code génétique a été un peu chamboulé. C'est ce qui arrive assez fréquemment. Tous les virus varient tout le temps, le coronavirus aussi. Mais là, en l'occurrence, cette variation du virus, elle a été identifiée dans une zone du territoire anglais où on assiste par ailleurs à un départ épidémique plus important, c'est-à-dire une augmentation de la circulation du virus. Et du coup, les scientifiques anglais se demandent si cette nouvelle variété, ce nouveau variant du virus pourrait être plus, je dirais, contagieux que les autres. Ils n'en ont pas de preuves, mais dès lors qu'on se pose la question, vous comprenez qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires.
On entend votre discours rassurant, principe de précaution, mais les mesures sont drastiques. Les mots aussi, on entend hors de contrôle. Tout ça fait peur.
Oui, l'idée n'est pas de faire peur, encore une fois. L'idée est de constater que nous prenons les décisions au bon moment pour pouvoir protéger les populations tant qu'il y a un doute. J'ai passé mon dimanche hier avec les scientifiques et avec mes homologues européens par téléphone toute la journée pour pouvoir faire le point sur cette question. Ce qu'on sait sur cette forme de coronavirus, sur ce variant comme on l'appelle, c'est qu'a priori, ce que nous disent les experts là-bas en Angleterre, c'est que, et ce qu'on a pu constater, c'est que les symptômes cliniques seraient les mêmes, le nombre de cas graves pourrait être a priori aussi les mêmes, et se pose la question de savoir s'il est plus transmissible, encore une fois, que les autres. Donc ça nécessite qu'on prenne les précautions. On en saura plus dans les heures, les jours qui viennent. Je vous écoute.
Quel est le risque que cette souche accélère encore la propagation de l'épidémie?
Mais pour l'instant, on est dans un risque théorique. Encore une fois, est-ce que l'épidémie a augmenté en Angleterre parce que ce variant du virus était plus contagieux? Ou est-ce que ce variant du virus a émergé, entre guillemets, à la faveur d'une reprise épidémique liée à d'autres paramètres dans l'Angleterre? Donc il faut pouvoir faire des études sur modèle animal, des études in vitro, des observations en population, pour regarder si oui ou non il est plus contagieux. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que, a priori, encore une fois, à ce stade, la PCR reste tout aussi performante pour diagnostiquer ce variant du virus, et les anticorps développés par les vaccins, les deux principaux vaccins qui arrivent, c'est-à-dire le Pfizer-BioNTech et le Moderna, ne ciblent pas cette zone mutée du virus, donc a priori, il n'y a pas de raison de penser que les vaccins seraient moins efficaces. Sont quand même des bonnes nouvelles. Donc on prend le temps d'avoir toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Nous fermons les frontières, oui, avec l'Angleterre pour 24-48 heures. Le temps aussi d'établir en coordination avec les voisins européens des protocoles de rentrée sur le territoire. Oui, et puis nous aurons eu le temps de nous coordonner les uns avec les autres pour savoir dans quelles conditions les ressortissants européens de l'Union européenne qui sont en Angleterre et qui souhaiteraient passer par la France, par la Belgique, par l'Allemagne, par les Pays-Bas, pourrait le faire.
On ferme aujourd'hui, mais on lit aussi que cette souche, elle circule en Grande-Bretagne depuis des semaines. Est-ce que le virus n'est pas déjà en France?
Il est tout à fait possible que le virus circule en France. Il a été identifié une fois en Italie. Il est tout à fait possible qu'il circule en France. Nous le saurons parce que nous lançons, et comme nous le faisons régulièrement, des études génotypiques. C'est-à-dire que les scientifiques prennent des virus identifiés par PCR chez un certain nombre de malades et font ce qu'on appelle un séquençage génétique. Et donc, ils sont tout à fait capables de l'identifier. Ce que je sais, c'est que sur les derniers jours, 500 souches virales ont été identifiées, analysées en génétique, et que ce variant n'a pas été retrouvé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne circule pas. Mais encore une fois, quel est l'intérêt du coup? Vous allez me dire, s'il doit circuler en France, pourquoi fermer les frontières avec l'Angleterre? Parce qu'en Angleterre, il circule beaucoup. C'est-à-dire que la majorité des cas identifiés en séquençage génétique dans le sud et dans l'est de l'Angleterre correspondent à ce variant. Donc là-bas, on est à peu près sûr d'en trouver. Donc autant éviter, je dirais, tant qu'on n'a pas toutes les connaissances sur ce variant, de faire circuler ou de favoriser les circulations de cette souche.
48 heures, fermeture de toutes les liaisons, y compris les transports de marchandises. Est-ce que les Français qui vivent en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de rentrer dans les jours qui viennent pourront rentrer pour Noël?
Les conditions qui leur permettraient de revenir en France d'ici 24-48 heures sont en cours de coordination avec nos partenaires européens, avec très probablement des tests PCR exigés avant de partir, la question de la septaine, c'est-à-dire la quatorzaine quand on arrive sur le territoire national. On prend toutes les précautions comme nous le faisons depuis le début.
Ils seront quand?
Ils le seront dans la journée, en fin de journée ou demain.
Je lisais qu'il y avait eu 20 000 mutations du virus déjà recensées. Est-ce que ça veut dire que chaque année, on va devoir aussi adapter potentiellement les vaccins comme on le fait pour le virus de la grippe, par exemple?
Je vous lis, à ce stade, nous n'avons pas identifié dans le monde de variants du virus sur lesquels les vaccins dont nous disposons aujourd'hui ne seraient pas actifs. Et c'est une bonne nouvelle, c'est tant mieux. Maintenant, si jamais il y avait une variation de l'ADN ou de l'ARN plutôt du virus et qu'il fallait pour cela faire ce que nous faisons tous les ans avec la grippe, c'est-à-dire faire évoluer le vaccin, dans ce cas-là, les scientifiques le feraient. Ils savent le faire, mais ce n'est pas le cas à date.
En attendant, l'Agence européenne du médicament va se prononcer aujourd'hui sur la validation du vaccin Pfizer-BioNTech. La France sera prête pour vacciner quand ?
La France vaccinera, comme ses homologues européens, nous allons commencer en fin de week-end prochain. Donc une semaine, lundi prochain, nous aurons normalement commencé à vacciner. Alors, ce sera un début très progressif, vous l'imaginez.
Ce sera plus un départ symbolique qu'autre chose ?
Il n'y a rien de symbolique, parce que quand vous vaccinez quelqu'un qui est fragile au regard du virus, vous le protégez. Et donc la protection n'est pas un symbole, c'est fondamental et c'est tout le sens que nous voulons donner à cette campagne vaccinale. L'autre sens que nous voulons donner à cette campagne française, c'est celui de la confiance. Nous ne nous précipitons pas. C'est pourquoi vous ne voyez pas d'image de vaccinodrome, c'est pourquoi je ne vous annonce pas ce matin qu'il y aura 200 000 Français vaccinés le 27 décembre. Ça n'aurait pas de sens, on n'est pas dans cette urgence-là. Nous souhaitons organiser les choses en amont avec une consultation pré-vaccinale, médicale, avec le recueil du consentement, comme on s'adresse à des personnes âgées en EHPAD, si elles ne peuvent pas donner, exprimer leur consentement, prendre le temps de pouvoir consulter la famille ou la personne de confiance. Donc oui, c'est une vaccination, je dirais, à la française entre guillemets, mais je dis ça en termes très positifs, puisque c'est une vaccination qui prend le temps de s'assurer que les conditions sont réunies pour que la confiance soit au rendez-vous.
Nous étions tout à l'heure dans le journal de 8h devant l'usine qui produit ce vaccin Pfizer en Belgique. Est-ce que les livraisons ont déjà commencé sur le territoire français ?
Non, les livraisons du vaccin, en France comme partout en Europe, ne commenceront que lorsque l'Agence européenne du médicament aura donné son feu vert et que la Commission européenne, ça devrait être demain ou au plus tard après-demain, donne le go pour qu'on puisse commencer ces livraisons.
Les États-Unis, eux, vont déjà commencer à diffuser le second vaccin, celui de Moderna. Pour l'Europe, ce sera quand ?
Ça va arriver rapidement si l'Agence du médicament européenne valide et lorsqu'elle l'aura validé dans les mêmes conditions que pour le Pfizer. Tous les pays européens sont livrés au même moment, au prorata de leur population, à chaque fois qu'il y aura des livraisons. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, qui nous permet d'être puissants. Ensemble, on a été plus forts. Et donc nous fonctionnons en termes européens en la matière.
Ça veut dire qu'il va falloir aussi répartir tous ces approvisionnements. Est-ce que les quantités seront suffisantes pour que chacun puisse vacciner tout le monde ?
Alors les quantités à terme devront être suffisantes, puisque vous le savez, nous n'avons pas acheté auprès d'un seul laboratoire. Nous avons fait des précommandes auprès de tous les laboratoires, quelle que soit leur origine évidemment, susceptible de développer un vaccin efficace, de manière à protéger à terme toute la population européenne. Et à l'initiative de la France et du président de la République française, je le dis parce que c'est important, nous avons fait en sorte que dans ces contrats, il y ait une clause qui fasse en sorte que les pays pauvres, qui n'ont pas accès aux mêmes contrats que nous, puissent être demain protégés par les mêmes vaccins. Donc c'est une belle modalité de fonctionnement. Maintenant, il va falloir que nous démarrions cette campagne. Je le redis. Nous allons commencer par environ 1 million de publics qui sont des publics particulièrement fragiles, très âgés, en établissements collectifs comme les EHPAD ou les hôpitaux, ainsi que les soignants qui travaillent pour les soigner et qui sont eux-mêmes fragiles au regard de leur âge.
Vous tablez sur combien de temps pour cette première étape ?
Mais écoutez, entre fin décembre et quelque part en février. Ce sera, il y a un rappel vaccinal au bout de 3 semaines. Et je le redis, on ne veut pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse, c'est bien, ça veut dire qu'on commence très tôt, beaucoup plus tôt d'ailleurs que ce qu'on aurait pu imaginer plusieurs mois en arrière. Et c'est une bonne nouvelle, parce que les conditions de sécurité et d'efficacité sont réunies. Et la précipitation, on l'évite, c'est ce qui aurait prévalu si on avait fait d'autres choix que notre choix. C'est-à-dire que nous allons vacciner les personnes âgées chez elles, dans leur chambre, par les soignants qu'ils connaissent, en présence de leur médecin, après qu'ils aient donné leur accord, après un examen clinique, et non pas dans des grands centres de vaccination dans lesquels on leur demande de se présenter avec un bon. On sait que ça ne fonctionne pas en France, ça avait été essayé il y a une dizaine d'années.
Olivier Véran, nous avons déconfiné à la veille de 2 réveillons qui vont se dérouler en 8 jours. Période à haut risque, on le sait. Est-ce que nous sommes déjà sur une pente qui nous mène vers un 3e pic ?
Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas sur une pente aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une ligne droite depuis environ 15 jours. À savoir que le virus ne diminue plus, ça nous le savons, mais que nous ne sommes pas non plus dans une augmentation massive. Il y a une augmentation du nombre de cas diagnostiqués, mais il y a également une augmentation très sensible du nombre de tests réalisés. Nous étions retombés à 1 million de tests par semaine, nous étions hier à 1 800 000 tests par semaine, et donc plus vous cherchez, plus vous trouvez. Le taux de positivité des tests, lui, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur 100 tests pratiqués, il est en dessous de 6%, aux alentours de 6%, il est plutôt stable. Donc on est plutôt sur une ligne droite aujourd'hui. Par contre, cette ligne droite, elle est à un niveau trop élevé. Vous vous souvenez des 5000 cas par jour, ce que nous souhaitions atteindre pour pouvoir reprendre le contrôle sur les chaînes de contamination du virus. Nous sommes au-dessus de 10 000. Ça veut dire qu'on est dans une situation assez fragile, voire précaire, et qu'il ne faut surtout pas basculer du mauvais côté, raison pour laquelle nous avons maintenu des consignes sanitaires, mis en place un couvre-feu et très largement communiqué auprès des Français sur les risques qu'ils ne doivent pas prendre pour eux et pour leurs proches à l'occasion de ces réveillons.
Est-ce qu'on a bien fait de libérer les Français, les déplacements, quand on voit que tous nos voisins, finalement, se reconfinent aujourd'hui?
Mais justement, la France n'a pas été obligée de reconfiner en catastrophe avant Noël et d'annuler les fêtes. Regardez les Allemands, regardez les Anglais, regardez les Italiens, regardez les Hollandais. Ils n'avaient pas pris de décision comme nous l'avons prise de confiner de façon plus importante plus tôt. Nous avons confiné au bon moment, nous avons confiné fort, les Français l'ont respecté. Nous sommes le pays dans lequel, au sein duquel le virus a baissé le plus rapidement, ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter ce reconfinement en catastrophe et l'annulation pure et simple de Noël. Mais ça ne veut pas dire, allez-y, mais honnêtement je vous dis ça, je suis convaincu que les Français ont saisi, ont compris l'importance de faire attention, et tous ceux que je rencontre me disent qu'ils vont faire extrêmement attention.
Vous êtes sur la ligne de la précaution maximale au moment du réveillon. En famille, est-ce qu'on met les personnes âgées dans la cuisine, comme on a pu l'entendre ?
On ne met pas les personnes âgées
dans la cuisine. À une table
séparée ? Dans la cuisine. Quand on peut l'éviter, on évite de se retrouver sans masque à proximité d'une personne fragile.
On garde le masque pendant le réveillon, entre chaque plat, entre chaque verre.
Et vous savez bien comment les choses se passent. Vous savez, aujourd'hui, et des études le montrent régulièrement, qu'on se contamine plus facilement là où on mange, là où on tousse, là où on sue et on respire très fort, et là où on chante. Hélas, ce sont des moments de la vie pourtant qu'on aime bien, qu'on apprécie. Et donc, ce sont les moments qui sont les plus sensibles. Et franchement, enfin, je vous dis ça fait 9 mois qu'on en parle. Je sais que les Français ont parfaitement compris l'importance de ne pas exposer les plus fragiles d'entre nous à ce virus.
C'est un pari fait sur le mois de janvier. C'est réveillon quand même.
C'est pas un pari qui est fait sur le mois de janvier. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la situation des voisins, des pays voisins, qui n'avaient pas confiné comme nous l'avons fait, et qui ont aujourd'hui une circulation virus beaucoup plus élevée. Nous sommes entre 10 et 15 000 cas par jour. Nos voisins allemands, je le regardais, sont entre 28 et 35 000 cas par jour. Et ils ont une courbe qui continue d'augmenter en continu. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut relâcher nos efforts. Mais ça veut dire que nous avons saisi collectivement comment faire pour maîtriser le virus, comment faire pour éviter les flambées épidémiques, c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri. Et je regarde tous les jours, les courbes, les chiffres, pour dépister d'éventuelles prémices de reprise épidémique. Je vous le dis, la situation ne me satisfait pas aujourd'hui. Elle est trop fragile, elle est trop précaire, le niveau de circulation du virus est trop élevé pour que nous puissions pleinement avoir le contrôle sur la contamination. Néanmoins, elle nous autorise ce niveau, et ce que les efforts que nous avons faits nous autorisent, je dirais, ces moments de vacances, avec toutes les précautions nécessaires.
Un dernier mot, Olivier Véran, vous avez participé hier à un conseil de défense à distance en visioconférence avec Emmanuel Macron, qui présidera aussi le conseil des ministres tout à l'heure. Comment va le président aujourd'hui ?
Il est, je peux vous dire, totalement opérationnel, pleinement à son travail. Je l'ai eu depuis tôt hier matin jusqu'à tard hier. Il travaille, et donc un président qui travaille, c'est l'essentiel, puisqu'il est au service des Français, et je lui souhaite à nouveau un prompt rétablissement.
Et vous faites quoi pour le réveillon ? Vous voyez votre famille ?
Moi, je suis, pour l'instant, à l'heure à laquelle je vous parle, toujours en train de préparer mon agenda de gestion de crise et de préparation de la campagne vaccinale. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour tous.
Merci d'être venu ce matin sur Europe 1, Olivier Véran, et merci pour vos réponses dans ce contexte où on se pose évidemment beaucoup de questions. Olivier Véran, invité politique d'Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h32, le rappel de l'info avec vous, Émilie Dez.
Le Royaume-Uni coupé du monde. La France, l'Allemagne, le Canada ou encore la Turquie ont décidé de suspendre leur liaison avec le territoire britannique. La faute à une nouvelle souche du coronavirus jugée hors de contrôle et beaucoup plus contagieuse. Il est possible que cette nouvelle variante circule en France, même si sur les derniers jours, elle n'a pas été retrouvée dans les souches analysées, a déclaré Olivier Véran à l'instant sur Europe 1. En France, la fermeture des frontières ne doit durer pour le moment que 48 heures, le temps de trouver une solution, assure Matignon. Adrien Beck.
Oui, et d'ici là, tous les échanges entre France et Grande-Bretagne sont gelés, les Eurostar, les vols, les ferries bien sûr, mais aussi le transport de marchandises, les camions. Bref, la France se coupe du Royaume-Uni avec la volonté que ça ne dure pas trop. Paris espère pouvoir rouvrir dès demain ses liaisons avec Londres, moyennant un test obligatoire au départ, notamment pour les nombreux Français qui voudraient traverser la Manche pour passer Noël. En fait, le gouvernement ne veut pas dramatiser la situation. Matignon Matignon rappelle d'ailleurs qu'on ne sait pas à ce stade si cette mutation entraîne réellement ou pas une plus grande contagiosité du virus. La France qui se montre un peu à rebours de certains de ses voisins, même si une réunion des ambassadeurs a lieu à Bruxelles aujourd'hui pour tenter une coordination. L'Allemagne compte bien maintenir la suspension de ses vols vers le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre et l'Italie, entre autres, jusqu'au 6 janvier.
Adrien Beck pour Europe 1. L'Agence européenne du médicament doit donner aujourd'hui son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, vaccin qui resterait efficace contre la nouvelle souche du Covid, selon le gouvernement allemand qui se fait l'écho des experts de l'Union européenne. La France a enregistré 12 799 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ces dernières 24 heures, 131 décès. La culture devant le Conseil d'État, une dizaine de recours ont été déposés devant la plus haute juridiction administrative. L'objectif, contester la fermeture des cinémas, des théâtres et des musées décidés par le gouvernement. Des recours qui seront examinés à partir de 9h ce matin. Benoît Payan devrait, sauf surprise, devenir le nouveau maire de Marseille. Le conseil municipal se réunit aujourd'hui après la démission de Michel Rubirola. Benoît Payan était son premier adjoint. Si vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, pas de panique, il est encore temps de passer commande. Xavier Mallet, le directeur de Colissimo, est formel.
Ils seront livrés avant Noël, on se mobilise pour cela et je vous dis même que jusqu'à ce lundi soir, pour tous les colis qui nous seront remis d'ici là, ils seront livrés avant Noël.
Alors j'imagine que c'est un peu la folie en ce moment dans vos entrepôts et vos centres de triage. Comment ça se passe? Combien de colis par jour?
Alors oui, c'est un peu la folie. Alors comme chaque fin d'année, mais vous imaginez que cette année un peu extraordinaire pour notre secteur, fait qu'effectivement on a jusqu'à 4 millions de colis Simo à livrer tous les jours.
Ah oui, et c'était combien l'année dernière?
Alors l'année dernière, on était à 3 millions et une journée normale, on va dire dans notre métier, c'est 1 million de Colissimo. Donc déjà 1 million de Colissimo tous les jours, c'est beaucoup. Mais 4 par jour et ça pendant plusieurs jours de suite, c'est tout à fait exceptionnel.
Xavier Mallet au micro Europe 1 de Mathieu Charrier ce matin. Pas de doublé pour les handballeuses françaises qui s'inclinent en finale de l'Euro, défaite 22-20 face à la Norvège. L'objectif désormais, faire aussi bien, voire mieux l'été prochain au JO de Tokyo. Et puis en football, Paris et Lille ont fait match nul 0-0 hier soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Lille qui reste premier au classement devant Lyon et Paris.
Émilie Dez pour l'info, merci à vous. Et on va retrouver Laurent Cabrol pour la météo très pluvieuse, Laurent, de ce lundi 21 décembre.
Oui Sébastien, effectivement, et tous nos amis s'en aperçoivent, enfin tous nos amis, presque tous nos amis s'en aperçoivent, parce que une partie de la France est encore à l'abri de la pluie, mais il faut savoir que ça se déroule en deux temps. Il y a le passage de la pluie lui-même, de la perturbation, puis derrière, ça s'espace un petit peu, mais enfin ça reste très couvert et puis pluvieux par épisode. Alors là, j'ai vu sur les cartes, Clermont-Ferrand était touché, Vichy, enfin touché, était concerné, c'est pas la guerre quand même, Clermont-Ferrand, Vichy, et puis nous avons Neyrisse-les-Bains, tiens, dans l'Allier, qui est touché également. Et nous allons vivre donc cette perturbation qui mesure 400 km de large. Nous allons la vivre tout au long de la journée, au point que ce soir, pratiquement tout le monde sera touché. Mais on peut dire tout le monde, hein, puisque le bassin méditerranéen, même s'il ne pleut pas beaucoup, aura ses quelques gouttes. Mais nous allons vivre une journée de pluie avec des températures de 13 à 16 degrés. Demain, ça sera beaucoup mieux dans les régions du Sud, même très très bien. Et puis, encore plus vieux dans les régions du Nord. Je vous reparle de Noël tout à l'heure.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure. Et je salue le docteur Jimmy Mohamed qui m'a rejoint. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On prend soin les uns des autres chaque matin avec vous. Notre santé, vous allez nous proposer un test tout simple ce matin, un test pour savoir si on est en bonne condition physique.
Eh oui, parce que être en bonne condition physique ne se résume pas à votre capacité de courir 5 km ou de faire 20 ou 30 pompes. La bonne condition, elle peut s'évaluer tout simplement avec un exercice tout simple. Vous n'avez besoin d'absolument aucun matériel. Il suffit tout simplement d'abord de vous asseoir par terre, jambes croisées et de vous lever. Regardez si ça a été difficile pour vous de le faire, si vous avez dû vous servir de vos mains, de vos genoux, de vos jambes. Et puis, une fois que vous êtes debout, on va refaire l'exercice, mais vous allez vous noter. Vous partez d'une note de 10 sur 10, la note maximum. Vous allez vous asseoir et lorsque vous allez vouloir vous relever, regardez si vous avez utilisé un bras, une jambe, un genou, si vous avez perdu l'équilibre. Et à chaque fois, vous vous retirez un point. Si vous êtes levé parfaitement sans rien toucher, eh bien vous avez 10 sur 10, bravo. Et puis Sébastien, si vous n'arrivez pas à vous relever et que vous roulez par terre immédiatement, bon bah vous avez 0 sur 10, ça veut dire que votre condition est catastrophique. Alors ce test, il est intéressant parce qu'il est révélateur de votre force, mais aussi de votre souplesse, car d'une façon générale, ça va être révélateur de votre condition physique. Cet exercice, il requiert des jambes musclées, de la stabilité et même de l'équilibre. Mais pas de panique, si jamais vous avez un mauvais résultat, 6 ou 7 sur 10, eh bien d'ici quelques temps, je vous donnerai quelques conseils pour vous remettre en forme.
Ben voilà, on les attend déjà parce que je sens que ça va être difficile. Jimmy Mohamed, merci pour vos conseils. On va essayer à la maison cet après-midi. À demain, Jimmy. Il est 8h38 sur Europe 1. La culture à l'honneur chaque matin pendant les fêtes. Deux artistes nous donnent leur coup de cœur pour cette fin d'année. Ce matin, les comédiens Virginie Hoc et Antoine Duléry sont avec nous dans quelques secondes. Et puis un nouveau rendez-vous à 9h moins le quart. Il est déjà là. Bertrand Chameroy refait l'année. C'est sa rétro 2020. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
9h moins 20 sur Europe 1. La culture est essentielle et c'est un mot d'ordre auquel Europe 1 s'associe en cette période de fête jusqu'à Noël. Nous maintenons cette séquence chaque matin. Nous recevons deux artistes en direct et ce matin j'accueille d'abord la comédienne et humoriste belge Virginie Hoc. Bonjour à vous.
Bonjour Sébastien, joyeux matin.
Merci à vous aussi. Vous connaissez Antoine Duléry?
Oui, je le connais.
Ben, il est là, lui aussi.
Bonjour. Bonjour Virginie. Comment ça va Virginie?
Merci d'être avec nous Antoine Duléry. Vous aimez Virginie Hoc? Vous avez déjà joué ensemble tous les deux?
Non, je crois pas non, Virginie.
Jamais l'occasion encore.
Non, hélas, mais j'espère que ça se fera parce que c'est une belle artiste.
Alors, ça ravit de mais je crois qu'il faut anticiper Virginie. Les choses. Oui, il faut anticiper les choses. Lisons des pièces puisqu'on a le temps en ce moment et téléphonons-nous. Sébastien, vous pouvez nous laisser les numéros, s'il
alors,
vous plaît.
Alors, échangez vos numéros, bien sûr, hors antenne, à la fin de la séquence. Merci d'être avec nous et de jouer le jeu, parce que vous connaissez le principe, vous allez nous conseiller chacun vos coups de cœur culturels pendant ces fêtes. Virginie Hoc, tiens, commençons avec vous.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai décidé de faire un truc que tout le monde, bon, Antoine peut le faire, mais les gens aussi, c'est-à-dire de ranger un peu leurs CD et leurs vinyles. C'est ce que je fais. Et je retrouve des pépites, des choses que j'avais achetées. Je vois un peu toutes les époques de ma vie. Donc là, j'ai quand même retrouvé Louis Armstrong avec Louis and the Good Book.
Ouais.
Vous voyez un peu quelle année. Puis je remonte avec Bob Marley and the Wailers. Et je retermine par Bachung, Fantaisie militaire. Vous voyez le grand écart.
Hein. Ouais. Vous êtes plutôt dans le retour en arrière, dans la nostalgie de vos coups de cœur passés.
Le rangement, c'est vrai qu'on voit un peu toutes les périodes vers lesquelles on est passé, et je trouve ça chouette, en plus dans cette période qu'on ne peut pas faire grand-chose, réécouter tous des disques, le faire passer à ses enfants, redécouvrir un petit peu tout ce qui a jalonné nos époques.
On a le temps et on partage autour de la musique qui nous a marqué. Antoine Duléry, qu'est-ce que vous avez dans votre discothèque que vous aimeriez ressortir?
Beaucoup de choses, j'ai pas mal de trucs aussi comme Virginie. C'est très, moi j'aime beaucoup la variété française, du classique. J'ai aussi du Bob Dylan, j'ai du Elvis Presley. C'est très, j'ai du Johnny évidemment puisque j'aimais beaucoup de Johnny. Et j'ai un peu de tout. J'ai beaucoup de Charlotte Navour aussi que voilà, des gens que j'ai eu la chance de bien connaître. Et ça c'est super. Ça me ramène, ça me rappelle. Et j'ai beaucoup de choses très éclectiques. Voilà, un petit peu comme Virginie d'ailleurs.
Ouais.
Voilà.
J'ai pas de Bob Marley. Question pour Antoine. Ah bah quand oui, on se verra, quand on fera cette pièce, je vous apporterai. Je vais vous trouver un vinyle. Mais vous êtes plus vinyle ou CD ou alors ordi?
Les vinyles, Anna, tu sais, ah, oui. Mon copain Danny Briand m'a offert l'année dernière un magnifique pick-up comme on faisait dans le temps pour mettre des vinyles. Je redécouvre les vinyles, mais c'est récent, hein.
Eh ben,
ma redécouverte est assez récente.
Il y a un nouveau succès, gros retour du vinyle, effectivement. Antoine Duléry, votre conseil culture du moment?
Ben moi, j'adore. Alors là, j'ai découvert le Florilège de Laurent Voulzy, qui est une compilation de toutes ses chansons merveilleuses qui nous a aussi accompagnés, et certaines nouvelles. Et c'est génial. Il s'appelle Florilège.
Florilège.
C'est vraiment... un CD merveilleux parce que on redécouvre toutes ses chansons. C'est vraiment un génie de la mélodie. Et ça me ramène aussi avec The Rock Collection, ça me ramène à mon adolescence.
Eh oui.
À mes premiers émois amoureux.
Lorella, c'est un titre inédit qui est sur cet album, et Laurent Voulzy était venu d'ailleurs sur Europe 1 nous en parler.
Il y a des choses nouvelles aussi dans cet album.
Et dans les chansons passées, quelle est votre préférée?
Oh ben il y en a tellement, mais Belle Île en mer, c'est peut-être une des plus belles chansons du monde, Belle Île en mer.
Belle Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mon...
Virginie Hogg, vous êtes cliente, vous le dites?
Oui. Oui, j'ai noté. Florilège, Laurent Voulzy, ça y est, c'est noté. Parce que Père Noël n'avait pas encore d'idées. Mais j'ai beaucoup de CD et de disques. Je vais passer un bon moment. Merci beaucoup, Antoine.
On dit un mot de votre actualité, Virginie Hoc. Les théâtres sont fermés, mais heureusement, il reste la télévision. Et on va vous voir mardi soir sur France 2 dans une pièce aux côtés de Pierre Palmade. Très à table.
T'es superstitieux, Pierre?
Moi? Non.
Tu peux passer sous une échelle?
Mais bien sûr.
Et renverser du sel sur une nappe?
Mais tant que tu veux.
Et être très à table?
Ah non! Ça non, ça jamais.
T'es superstitieux?
Non, mais très à table, il y a des choses qu'on ne fait pas.
Voilà, un réveillon très à table. Cela dit, très à table en ce moment, on n'est pas dans les clous, hein, là, Virginie.
Non, voilà, bah, c'est chouette parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient « mais vous n'avez pas le droit ». Sachez que moi qui suis en Belgique, nous avons droit à une personne. Donc voyez, et on s'est organisé, comme les gens ne peuvent pas aller au théâtre, eh bien nous allons jusqu'à eux. Donc moi je propose aux gens de s'installer comme s'ils étaient au théâtre. Coupez vos téléphones portables, éteignez toute la lumière qu'il y a dans votre salon et laissez-vous porter. J'espère que la magie opérera un peu. En tout cas, cette pièce est d'actualité, puisque ça se passe un réveillon de Noël et qu'une femme pleine de toc et de superstition, on va tout faire pour empêcher d'avoir 13 convives
vous,
à table.
Vous l'avez tourné pendant cette période de théâtre fermé, c'est-à-dire sans public?
Oui, on l'a tourné, bah, figurez-vous, samedi, donc c'était un peu spécial, puisque c'est vraiment une pièce qui a un rythme et qui a un souffle avec le public, puisque c'est un rythme d'humour. Donc c'était voilà, un paradoxe, mais vraiment c'est pour forcer les choses, c'est mettre le pied dans la porte pour insuffler encore cette envie et ne jamais oublier que c'est indispensable.
Et on arrive à jouer comme ça sans la réaction du public dans la salle?
Mais moi, je crois que j'aurais envie de tout faire pour que les gens passent un moment théâtral de toute façon. Donc, il y avait évidemment des figurants parce que ça, il y avait droit. Mais c'était pas la même, c'est pas le même cœur, c'est pas la même respiration. Mais je les remercie de nous avoir quand même portés. Mais c'était déroutant parce qu'il y avait les répétitions où on avait un rythme. Puis tout à coup, quand il y avait des réactions de rire, il y avait comme une panique. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était vraiment un bonheur de les entendre.
Antoine Duléry, je vous...
Quand, Virginie, quand est-ce que ça passe?
Mardi soir.
Eh bien, ça passe mardi soir à 21h05 sur France 2.
Demain soir sur France 2.
Avec Pierre Palmade, Virginie Hoc.
Antoine Duléry, je voudrais pour terminer qu'on écoute juste une voix ensemble.
Je vif vous avez l'air.
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
C'est juste, mais c'est pas français. C'était dans l'As des As, c'est la voix de Belmondo, bien sûr, dont je lis qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné envie de faire ce métier, Antoine Duléry.
Oui, oui, moi quand j'étais tout jeune, quand j'avais 14-15 ans, ben, je voulais comme métier, je voulais faire Belmondo, c'était l'homme de Rio, c'était Peur sur la ville, c'était... Il y avait tout avec Jean-Paul, donc c'est vrai qu'à 14-15 ans, c'était le métier que je voulais faire. C'est génial, bondissant, et après j'ai eu la chance évidemment de le rencontrer, je raconte tout ça dans mon livre « Imite acteur », et c'est vrai que j'ai... Après je suis rentré dans le film, puisque j'ai eu la chance de rencontrer tous ces grands acteurs qui m'ont fait. Et puis j'ai même joué au théâtre, puisqu'on parle de théâtre avec Virginie. Après, j'ai joué au théâtre, après avoir fait Les Misérables de Claude Lelouch avec lui. Et j'ai joué 230 fois La Puce à l'oreille avec Jean-Paul Belmondo. Et ça a été un grand, grand, grand souvenir.
Et vous racontez ces rencontres dans votre livre, donc Imite acteur. Voilà, on a une pièce de théâtre, on a un livre, on a écouté de la musique. Beaucoup de coups de culture encore aujourd'hui sur Europe 1. Merci à tous les deux, Virginie Hoc, Antoine Duléry. À bientôt sur Europe 1.
À bientôt, merci Sébastien.
8h48, à suivre votre nouveau rendez-vous dans cette fin d'année, en direct avec Bertrand Chameroy. On refait 2020. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 8h51 sur Europe 1 et c'est l'heure d'un nouveau rendez-vous que vous allez découvrir et qui va vous accompagner pendant toute cette période de fête. J'accueille en direct et dans ce studio Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tous les matins à 9h10, vous allez nous proposer votre rétro de l'année 2020.
C'est tout à fait exact et si vous me le permettez, je me présente aux auditeurs de la matinale, c'est la moindre des choses. Je m'appelle donc Bertrand Chameroy et je précise que je ne suis pas uniquement là pour assurer l'intérim capillaire de Mathieu Belliard dans ce studio, mais je le remercie.
Ne fallait pas compter sur moi là-dessus.
là-dessus.
Ah ben non, non, non. Je le remercie tout de même de m'avoir laissé son après-shampoing sur mon bureau. Merci beaucoup, Mathieu. Il y a quelques semaines, la direction d'Europe 1 m'a donc proposé, je cite, de prendre le relais de Nicolas Canteloup pendant les fêtes. Alors, je dois vous avouer que j'ai été très surpris. Hein. Je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé le pari très ambitieux, sachant que je n'ai que deux imitations dans ma besace et elles sont plutôt datées, constatées par vous-même. C'est un scandale, monsieur le cabache ! Georges Marchais. Vous l'avez reconnu, je suis sûr. Sinon, je sais faire... Je crois aux forces de l'esprit. Laurent Cabrol l'a reconnu, c'est François Mitterrand. Fort heureusement pour la station... Fort heureusement pour la station, la proposition de la direction dans son intégralité était prendre le relais de Nicolas Canteloup en faisant une rétro 2020. Et là, je me suis dit, mais quelle curieuse idée. Faire une rétro de 2020, c'est comme s'infliger un second visionnage des Bronzés 3, réécouter une interview de Muriel Pénicaud ou se resservir à la cantine d'Europe. Faut être complètement maso. Quoi qu'il en soit, dans quelques jours, nous allons enfin clôturer cette année si particulière, selon l'expression consacrée que plus personne ne peut supporter. Non, c'est vrai, Sébastien, si on n'en peut plus de cet euphémisme. Année si particulière, année de merde, oui. Disons les choses franchement, elle semble avoir duré 46 mois. D'ailleurs, Odoxa a réalisé un sondage auprès d'un panel de Français afin de savoir quel mot résume le mieux 2020. Curieusement, les mots allégresse, légèreté ou paquerette n'y figurent pas. Voici le palmarès. Confinement, Covid, triste, merdique, stress et déprime. Et d'après un autre sondage, 42% des Français déclarent 2020 pire année de leur vie. Ça veut tout de même dire qu'il y en a 58% qui ne le pensent pas. Je serais très curieux de les rencontrer, ces 58%, parce qu'à part ce type...
200 millions, il faut le dire, la somme fait rêver et oui. C'est donc un record pour un gagnant de l'euro-million. C'est donc un Français.
À part le gagnant même, français de l'euro-million, j'ai du mal à imaginer que des gens puissent se dire de 2020, c'était pas dingue. Mais franchement, ça va, ça passe. Alors avant d'enterrer une bonne fois pour toutes, revivons tous ensemble une dernière fois chaque matin les meilleurs moments que 2020 nous a offerts et ils ont été nombreux. Hein. Du début à la fin, ça aurait été pépite sur pépite, une actu aussi joyeuse que Michel Sardou, un grand cru millésimé. Et pour ce premier retour vers la déconfiture, je vous propose d'évoquer l'homme qu'on a presque plus vu à 20h à la télé que Gilles Boulot cette année, Emmanuel Macron. Le président de la République a multiplié les allocutions officielles, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Mais pour planter le décor des deux semaines de rétro qui nous attendent, réécoutons ses vœux pour 2020. C'était le 31 décembre 2019. Et je me souviens très bien de ce qu'il a dit ce soir-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve.
Oui, on a tendance à l'oublier, mais il y a un an, fin décembre, c'était déjà pas la folie. Hein. Le pays était paralysé par les grèves, ça gueulait contre la réforme des retraites, mais quand Macron évoquait des moments d'épreuve que nous avons vécu, il était loin, très loin de se douter qu'il n'était rien à côté de ce qui nous attendait. Il était même plein d'espoir.
Dans quelques heures, une nouvelle décennie s'ouvrira. Je vois les attentes, les impatiences, et je suis, moi aussi, comme vous, impatient de voir la situation s'améliorer plus vite pour nous tous.
Quand il dit ça, il ne sait pas.
Horrible.
Non, il ne sait pas qu'il finira même par le choper un an plus tard. À cet instant, personne ne sait qu'il arrive, tapis dans l'ombre, le...
Coronavirus. Connard de virus.
Oui, ça aussi vous l'aviez oublié, mais c'était l'un des dommages collatéraux de la pandémie, le single Corona Song de Renaud. Hein. On a vraiment tous bien morflé cette année. Bref, et Emmanuel Macron, de conclure, comme on l'a tous fait le 31 l'an dernier.
Je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous. Je vous souhaite une très bonne année 2020.
Mais oui, bonne année et la santé surtout. Hein. Allez, viens dans mes bras que je t'embrasse, toi. Ah, c'était ton verre, pardon. Ah, c'est pas grave si j'ai bu dedans. Et 2020, c'est 20 sur 20, l'autoroute du bonheur sans péage. En plus, t'as vu, cette année, les jours fériés tombent parfaitement. J'ai lu un article qui dit qu'il suffit de poser 25 jours de congés payés pour en avoir 60 de vacances. Ce que nous ne savions pas, c'est que nous allions avoir bien plus que 60 jours de vacances, forcés certes, mais vacances quand même. Et surtout, nous ignorions que l'année qu'on venait de se souhaiter bonne avait été scénarisée par des mecs à la fois totalement sadiques et encore complètement beurrés de la veille. Alors tu vois, moi je vois bien un virus, pas un petit truc, non, vraiment une bonne grosse pandémie qui va paralyser le monde entier, confiner plus de la moitié de l'humanité, tuer des gens, foutre en l'air l'économie, causer la fermeture des commerces. Faut pas qu'il arrive tout de suite, hein. D'abord, tu me fous le feu à 20% des forêts australiennes qui causeront la mort de 3 milliards d'animaux sauvages, histoire de poser l'ambiance. Après, bim, d'origine virus. Histoire d'ajouter un peu de rythme, tu me rajoutes des actes barbares de terrorisme, des inondations, une canicule, une marée noire à l'île Maurice, des feux gigantesques en Californie, des violences policières et la disparition de bon nombre de nos idoles, entre autres réjouissances. Quelle belle année, mes enfants, quelle belle année. Et ne rangez pas les cotillons trop vite, elle n'est pas terminée.
L'inquiétude autour d'une nouvelle souche du coronavirus. Cette mutation du SARS-CoV-2 peut-elle remettre en cause toute la stratégie européenne?
Allez, 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 attachez vos ceintures, vous êtes prêts, vous êtes chauds, on y va plus fort, on y va plus vite, c'est reparti pour un tour gratuit, les bras en l'air, les bras, les bras, les bras, ça recommence. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois comment se profile 2021, je me prépare à regretter 2020. La suite, demain, d'ici là, prenez bien soin de vous.
Un épisode par jour pendant deux semaines, pendant ces deux semaines de congé. Bertrand Chameroy pour la rétro 2020 en direct. Merci Bertrand, à demain.
À demain.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien, bonjour Bertrand. Hein. À tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure
avec
dans Culture
plaisir.
Média. Salut Paul. Dans notre info média du jour, on va parler d'un journal en pleine mutation, comme on dit, Le Monde, qui a gagné à la fois des lecteurs et des abonnés. Et cette année, en pleine crise, eh bien, c'est une performance évidemment étonnante. Comment a fait le journal? Réponse avec le grand patron, Louis Dreyfus, qui sera dans ce studio. Sommaire également, une compétition inédite, un concours de construction de Lego et même de destruction. C'est la nouvelle émission de M6, ça s'appelle Lego Masters. On sait que son animateur, le magicien humoriste Eric Antoine, et puis Muriel Robin, elle va parler du film événement sur TF1 ce soir, I Love You Coiffure. C'est un film qui redonne vie à ses sketchs cultes avec un parterre de stars. 48 stars dans le téléfilm, c'est la moitié du showbiz français, sans Bertrand Chameroy pour une fois.
Beau programme, c'est Culture Média. Et c'est à suivre après le journal de 9h avec Philippe Vandel. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain à partir de 7h. Vous aurez Mathieu Charrier, bien sûr, pour le 5-7. Juste avant, écoutez Le Monde changer. À demain.